Place Génie sur Europe 1.
16h-18h30. Laurent Ruquier.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui, Christine Bravo.
Ouais.
Elle est là. Isabelle Motreau.
Ouais.
Sylvie Boulet.
Ouais.
C'est lui qui crie bêtement. Jean-Marie Bigard.
Ouais.
Florian Gazan. Et alors, je suis obligé de réserver, évidemment, quand même, notre fierté de la semaine.
Ah, ouais.
Ça peut durer d'ailleurs plusieurs semaines, voire plusieurs
siècle,
années.
Tu veux dire.
Le prix Renaudot, Yann Moix.
Ouais. Merci.
Ça presque. On a presque une larme qui coule.
Ah, ouais.
Je sors de mon prix Renaudot, je prends le taxi. Vous voyez que l'humanité est quand même méchante. Je monte dans le taxi. Ça vous fait quoi d'avoir raté le Goncourt?
C'est horrible.
C'est l'un des plus beaux jours de ma vie.
Tu t'en fous du Goncourt.
Mais non, mais ça n'a rien à voir.
Mais
ça n'a rien
à voir. Des jeunes littéraires ou
c'est le Goncourt des bacs à sable en 85.
Ouais. Mais le Renaudot, c'est comme finir deuxième du championnat. T'es en Ligue des Champions,
non,
mais t'es pas champion. Quoi,
ah, pas du tout.
Non,
c'est deux prix qui n'ont rien à voir.
D'accord.
C'est plus littéraire.
Il y en a un, c'est le prix de Proust, c'est le prix de Céline.
Ils n'ont rien à voir, tu viens de dire.
Ils n'ont rien à voir.
C'est deux prix qu'ils n'ont rien à voir. On peut repasser la bande.
Regarde là.
Pour un Renaudot, c'est deux prix qui n'ont rien à voir.
Et alors, vous lisez bien, les gens sont méchants, Laurent.
Bon, elle est jalouse.
Mais
elle
non,
en
mais
crève.
Laurent, c'est,
mais
c'est
non,
la seule
si,
personne
je...
qui ne m'est pas appelée pour me féliciter, c'est Christine.
Mais parce que moi, j'écris même, pas au poids.
Laurent, même le hamster.
J'écris pas au poids. Même
alors, ça, c'est sûr.
Laurent, même le hamster d'un pote m'a appelé pour me féliciter.
Non, mais Christine, bravo, elle en crève de jalousie. C'était son rêve d'avoir un prix. Non. Le seul prix qu'elle a eu, c'est 15 euros sur un marché.
Et je dois dire que même Pierre Bénichoux était extraordinaire. Il est venu me voir et me dit : tu sais, le Renaudot, c'est le Goncourt chic.
Ah oui.
Très belle phrase de Pierre.
Et Stevie est venu à la réception.
Ouais,
et moi aussi, je te signale.
Moi, j'étais tétanisé.
Racontez, Stevie.
Ah bah, je suis resté devant au moins 20 minutes. J'osais pas rentrer.
Quand je suis sorti, parce que moi, je suis passé quelques minutes.
Ah bon ?
Féliciter Yann Moix.
C'était pour... où ?
Il y avait une petite soirée au Panthéon. Parce qu'il
j'étais pas invité.
Non, on était que
déjà
deux.
Au Panthéon.
Il était déjà au Panthéon. Il y avait tout Paris littéraire qui était là.
Mais oui.
Et d'ailleurs, dans ces cas-là, moi, je me planque parce que je tombe toujours sur un écrivain que j'ai pas invité. Et là, je vois Stevie quand je sors qui attendait dans la rue puis qui n'osait pas rentrer parce qu'il était impressionné par tous les écrivains.
Pour lui, c'était rendez-vous en terrain connu.
Ce qui était drôle, c'est qu'il y avait l'ambassadeur culturel de la Corée du Nord. Et il y a Jean-Marie qui arrive. Je dis, monsieur l'ambassadeur, voici Jean-Marie Bigard, l'homme le plus drôle de France. Il dit, oh oui, il est trop drôle. Je dis, non, mais quand il parle. Hein.
Là, on le voit pas trop. Et moi, vous ne connaissez pas ma fierté. Mon livre, Les Lettres de Bigard, tout d'un coup, se retrouve préfacé par un prix Renaudot.
Ah, mais oui, c'est vrai.
Et ça pour toujours.
D'ailleurs, on a quelqu'un qui voulait vous féliciter au téléphone. Elle est très, très contente. C'est une auditrice qui s'appelle Sabrina. Bonjour, Sabrina.
Bonjour, Laurent. Bonjour à toute l'équipe.
Je crois que vous allez lire Naissance. Vous allez lire Yann Moix.
Ah non, mais c'est... Je vous inculte à Yann Moix. Je le suis depuis toujours. Vous voyez, j'ai 33 ans. Et
06.
Comme par hasard.
06.
Non, mais depuis Jubilation vers le ciel, depuis les cimetières sont des champs de fleurs, ce sont des bouquins qui m'ont marqué, qui m'ont fait découvrir Yann Moix. Je suis tombée amoureuse dès lors que j'ai commencé à le lire. Et c'est un honneur déjà de vous avoir tous en ligne. C'est un honneur encore
sauf,
d'avoir
sauf que votre couple est en danger à cause de ça, parce que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé un mail. C'est votre mari qui s'appelle Nicolas, je crois, c'est bien ça?
Oui, absolument.
Et il m'a envoyé un mail pour me dire, cher monsieur Ruquier, plus qu'un message, c'est un appel au secours que je vous adresse. Je vous expose brièvement mon problème. Sabrina, mon amie, la mère de mon fils, préfère passer ses nuits avec vous et votre équipe qu'avec moi. Pleinement conscient de la qualité de votre émission portée par, entre autres, messieurs Bénichoux et Moix, les préférés de mon épouse, de ma compagne, et ne pouvant rivaliser avec eux, je me suis résolu à mettre de côté toute idée de luxure, puisque ma compagne, le casque vissé sur les oreilles, glousse en vous écoutant toute la nuit. Elle podcast vos émissions. Nous sommes parents depuis peu et pendant son congé maternité, elle préférait écouter les grosses têtes la journée et garder votre bande pour la nuit. Ma bande à moi, je me la mets derrière l'oreille, dit-il. Aussi, je ne vous remercierai jamais assez de venir à mon secours. Laissez-moi une place dans notre vie. Dites-lui de s'occuper un peu de moi. Et quand on pense que son prochain objectif, en plus, c'est de lire le livre de Yann Moix, depuis le Renaudot, elle ne parle que de lui et dire qu'il a eu en plus l'idée de génie de pondre un pavé de plus de 1000 pages. J'espère au moins que c'est écrit gros, dit votre mari. Il est drôle, votre mari, quand même.
Il est très, très drôle. Il est merveilleux. D'ailleurs, je profite pour dire que je l'aime fort. Mais c'est vrai.
Ah, c'est dommage, ça commence bien.
Il me rend très fier. Il me rend très fier parce qu'il a, c'était très, très bien écrit. J'étais pas du tout au courant qu'il vous avait écrit. Je suis super contente. Mais oui, c'est vrai. Je reconnais depuis mon congé. En fait, depuis toujours, je vous écoute depuis toujours. Mais alors, c'est vrai que le congé maternité, ça a été l'occasion de ne pas, de commencer à mal dormir. Et en fait, depuis, étant donné que notre fils ne fait pas ses nuits, effectivement, j'ai le casque.
Laurent, je vous rassure, toutes mes fans ne sont pas hystériques comme ça.
Ben nous, on est contents d'avoir des fans comme vous, ah, oui. Sabrina.
Je suis juste super heureuse, super fière et super, super honorée de vous parler. Et puis, Yann, moi, je vous félicite d'une petite voix nantaise bien
mère. Va t'occuper de ton moutard.
Mademoiselle, sachez que chaque compliment que vous me faites détruit Christine Bravo. Donc, je vais vous demander d'arrêter.
On vous embrasse très fort, Sabrina. Et bise à votre époux, Nicolas. C'est un autre Nicolas, je crois, qu'on a au téléphone maintenant. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous n'êtes pas le compagnon de la dame qu'on vient d'avoir.
Non.
Mais vous, votre chouchou, c'est aussi Yann Moix. Oh là là.
Oh. Ah, complètement, ouais.
Non, on a l'impression qu'il est mort, on parle que de lui, là.
Le seul mec qui me fait regretter d'avoir raté mon bac de français et qui me donne envie de lire à plus de 40 ans. C'est formidable, ça, quand même.
Pourtant, j'ai pas encore acheté un seul de ses bouquins.
Mais non, mais moi, mon but, c'est de donner envie de lire tout court.
Vous le voyez un jour devenir ministre de la Culture, c'est ça?
Ah oui, non, mais j'adore son côté acerbe. Moi, j'adore.
Vous allez l'acheter quand même maintenant, le bouquin d'Yann Moix, Nicolas.
Alors, je pourrais même pas vous dire c'est lequel. Mais sais qu'il y en a que je veux absolument acheter, c'est Anissa Cortou, je ne sais pas si c'est celui-là. Ouais.
Amenez votre voiture, pour le ramener, il faut un coffre quand même.
Enlevez l'enfant du coffre et mettez le bouquin à la place.
J'en ai quatre.
Quatre enfants.
Vous avez un break alors, c'est un grand coffre.
On vous embrasse et on vous applaudit, merci, on vous remercie Nicolas. Aude maintenant. Bonjour Aude.
Bonjour.
Alors, Aude, c'est à Isabelle Motreau qu'elle veut s'adresser parce que Isabelle a commis une petite erreur l'autre jour à propos de la grande collecte sur les années 14-18, sur la Première Guerre mondiale. C'est qu'on a lancé cette semaine, enfin, quand je dis on, le président François Hollande, car il est encore un peu président de la République.
Et, complètement oublié.
Et il a lancé les commémorations, le centenaire de la guerre 1914. Et on avait parlé de cette grande collecte où, vous savez, on recherche des écrits, des photos. Des souvenirs de cette époque, et vous aviez dit que vous en aviez, chère Isabelle, mais que vous ne vouliez pas vous en séparer. Ce à quoi Aude vous répondait. Bonjour Aude.
Et bonjour Laurent. Alors en fait, c'était pour dire à Isabelle et à toute l'équipe, elle avait hésité à confier un peu ses documents familiaux, que je comprends tout à fait, pour la grande collecte. Mais en fait, ce qu'il ne faudrait pas faire comme contresens, c'est le fait qu'en fait, on ne fait pas un don. En fait, les gens viennent avec les documents. On les numérise et ensuite on vous restitue le document.
Voilà, tu vois. Fais une photocopie puis on te les redonne.
Donc si on vous emmène Pierre Bénichoux, vous le numérisez et puis vous nous le rendez alors.
Tout à fait. Et en plus, vous pouvez venir et vous allez le voir en train d'être numérisé. Parce qu'en fait, par exemple, moi je travaille à la Bibliothèque nationale de France et du 14 au 16 novembre, les gens vont pouvoir venir à la très grande bibliothèque François Mitterrand, ils pourront apporter leur carnet, leur carte postale.
Stevie va apporter ses fantomètes.
Ouais, même s'ils ont des photocopies à faire personnelles pour eux, ils peuvent les amener.
Ça aussi, coûte rien. Pas
si on vous apporte le poilu de Christine Bravo, vous nous le rendez.
Est-ce que c'est le poilu?
C'est ton soldat inconnu.
Il y a longtemps qu'il n'a pas vu une flamme.
Ouais, exactement. Même on le rallume tous les jours, il s'éteint.
Bah, Aude, merci en tout cas de ces précisions. Mais alors, on va totalement maintenant effondrer Christine, parce que j'aimerais, chère Christine, que vous me disiez ce que vous faites samedi, c'est-à-dire demain, 9 novembre. Est-ce que vous n'êtes pas aux Herbiers demain, Christine Bravo?
Si, elle y est, rigole.
Si? Comment, mais qu'est-ce que vous êtes allé foutre là-bas?
Mais c'est une émission de la Gestapo, là,
non,
ou quoi?
Non, mais combien vous prenez pour ça?
Mais qu'est-ce que ça peut te foutre?
Vous faites les supermarchés, maintenant.
Mais c'est un supermarché.
Ah bah, attendez, je vois là, regardez la publicité, c'est un anniversaire.
C'est dégueulasse de faire ça.
Les 20 jours plaisir, au meuble du Bois Joli, route de la Roche-sur-Yon.
Ça, si c'est pas donné l'adresse de Jean Moulin, alors là, je connais plus rien.
Non mais attendez,
attends,
c'est pas ça.
La Roche-sur-Yon, alors tu t'arrêtes même pas chez moi.
Ouais, mais dis donc, tu sais combien il me file.
Non mais attendez, c'est pas ça le plus drôle. C'est qu'il y a une publicité donc, qui est parue
dans la presse
régionale. L'anniversaire anniversaire des meubles du Bois Joli, route de la Roche-sur-Yon, 20 jours plaisir, jusqu'à moins 30% hein, aux meubles du
sur
Bois
Christine.
Joli. Alors attendez, avec des cadeaux. Premier cadeau, vous pouvez jouer et gagner à la borne magique. Ça, c'est le premier cadeau. Deuxième cadeau derrière.
Non.
Christine Bravo présente le samedi 9 novembre aux meubles du Bois Joli avec votre photo, hein, Christine.
Sa photo en 1992.
Qu'est-ce que vous faites dans ce magasin de meubles de
voilà, elle a dû prendre quelques meubles, à mon avis.
J'en sais rien. J'ai reçu effectivement une proposition pour aller. On m'a dit qu'il fallait m'arrêter à la gare d'Angers. C'est ça, c'est dans ce coin-là.
On voit pas le rapport.
Bah, c'est à Angers.
Mais on te demande ce que tu vas faire là-bas.
Tu fais pas semblant de pas te souvenir. Tout à l'heure, t'as dit, tu sais pas combien il me donne. Tu te souviens de la somme en tout cas, ça c'est sûr.
Mais c'est quoi cette idée ? Jamais vous n'aviez fait ça !
Jamais !
Laurent, la phrase la plus drôle quand même. Bravo, fait le buzz aux meubles du Bois Joli.
Ah non mais, chacun son prix Renaudot, hein.
Europe 1.
On va se gêner. Qui a le mieux bossé ?
Pour le qui a le mieux bossé, on commence par Yann Moisk. Puis Yann Moisk, hein, c'est votre nom, Moisk.
Yann Moisk.
Moisk, c'est vous.
C'est pas mal. Hein. Assis à la place de Christophe de Chavannes qui a gagné pour la première fois hier le qui a le mieux bossé. Et vous allez me dire, cher Yann, le nom de l'agence qui a rétrogradé la France de A plus à AA, selon évidemment ce que nous raconte toute la presse et Europe 1 depuis ce matin.
Tu le sais, Yann.
Oui, j'ai un trou de mémoire.
C'est l'agence.
Allez, je la connais, oui.
Allez,
oui.
Yann.
J'ai un trou de mémoire.
Allez, Stevie, vous le savez.
Standard & Poor's.
Bonne réponse de Stevie. Vous êtes éliminé, Yann Moix.
Je la connaissais en plus. Mais non, mais j'ai un trou de mémoire, si.
Ah, cher Jean-Marie Bigard, à partir du 19 novembre, à qui pourra-t-on écrire ? Il a reçu l'an passé 1,7 million de lettres. C'est assez facile. Ah, hein. Oui. À partir du 19 novembre, à qui pourra-t-on écrire ? L'an passé, il a reçu 1,7 million de lettres.
Oh, attends, mais vous êtes nul aujourd'hui.
Au Père Noël.
Non.
Vous êtes éliminé, Jean-Marie Bigard.
Bah, oui. J'ai pensé au match retour France-Ukraine.
Ah oui, mais non. Ça, c'est le service que met en place la Poste chaque année pour que les enfants puissent écrire au Père Noël. On peut même lui envoyer un mail désormais grâce à laposte.fr.
Pour être sûr d'avoir les cadeaux, par contre, il faut mettre Père Noël Pékin Chine.
Hein. Isabelle Motro, pouvez-vous me dire quel grand derby pourra-t-on voir dimanche soir dans le cadre de la 13e journée de la Ligue 1 championnat ? Grand derby, le plus grand derby.
Je sais pas ce que c'est qu'un derby. Oh. C'est un truc de cheval.
Oh, mais non.
Il y a quelques bourrins parfois, c'est
un truc de cheval.
C'est du foot.
C'est du foot.
On t'avait déjà expliqué il y a un an, je me souviens.
C'est vrai, t'as
raison. C'est Saint-Étienne-Lyon.
Oh non, mais je savais pas.
Vous êtes éliminé, Isabelle Motro. Stevie, vous pouvez évidemment me dire, cher Stevie, où se trouve la grande foire du livre ? J'imagine que Yann Moix y sera présent, qui commence demain. C'est la 32e édition de cette grande foire du livre qui se trouve...
À Francfort ?
Ouais.
Non, aux Herbiers.
Non.
Herbiers, puisqu'il y aura Christine.
Je crois que c'est à Brive-la-Gaillarde.
Je te jure que je croyais que
c'est à Francfort. Brive-la-Gaillarde. Vous êtes éliminé, Stevie. Christine risque d'avoir un prix, c'est celui du qui a le mieux bossé. Ça va être la dernière. Mais heureusement, Florian Gazan est là, certainement pour sauver l'honneur. Florian, vous pourrez demain soir au Stade de France assister à un match de rugby qui opposera...
La France aux All Blacks.
Excellente réponse de Yann Moix.
Non,
il m'a appelé Yann Moix, il voit l'écrivain, moi.
Ah pardon, de Florian Gazan, oui. Bonne réponse de Florian Gazan. Vous pouvez évidemment, chère Christine, me dire de qui est le livre qu'a traduit le philosophe Patrick Thore. Libération consacre une page entière à cette traduction. Le livre original s'appelle The Descent of Man. Qui a écrit ce livre traduit par le philosophe Patrick Thore, The Descent of Man? C'est assez logique.
C'est facile pour toi, t'étais à deux doigts d'avoir le Renaudot.
The Descent of Man.
Oui.
Patrick Thore, très bon film, avec le marteau et tout, j'ai vu ça.
Réfléchissez. Ça veut dire quoi, The Descent of Man?
La descente de l'homme?
Oui, alors.
De la lune de...
Non, enfin. C'est
la descente de l'homme.
D'un philosophe, la filiation de l'homme, ça veut dire. Il a traduit ça par la filiation de l'homme. Le livre original est signé.
Ben oui.
Est signé. Stevie, vous le savez?
Oui. Darwin.
Oui. Darwin. Ah, excellente réponse de Stevie. Bravo,
ouais,
Stevie.
Bien, on sait toutes les réponses sauf la mienne. C'est quand même con. C'est
Florian Gazan est le grand gagnant du qui a le mieux bossé. Tenez, Florian. La compile quiz des comédies musicales. Un vrai jeu de société en 360 questions, plus un CD en bonus. Je vous offre aussi des recettes avec du chocolat blanc. C'est Nestlé qui publie ce petit livre de recettes, les meilleures recettes Nestlé.
Chocolat, mais blanc.
C'est pour Marine Le Pen, voilà. Oui. Un chocolat blanc, 100% pur beurre de cacao. 100 images qui ont fait scandale, signé Emmanuel Pierra de l'affiche du film de Jean Dujardin, vous savez, les Infidèles. Jusqu'à celle plus ancienne de « Et Dieu créa la femme » ou même la publicité le 4 septembre « J'enlève le bas ». Toutes les affiches, toutes les images qui ont fait scandale. Dar, vous savez, c'est ce programme court présente Frédéric Becbédé. C'est désormais Frédéric Taddeï, pardon. Et il le fait d'ailleurs avec sa sœur, je crois que c'est sa sœur Marie-Isabelle Taddeï. Les deux Taddeï publient donc pour les enfants. C'est la version enfant aux éditions du chêne Frédéric Taddeï, Marie-Isabelle Taddeï. Et alors là, je crois que c'est le plus beau cadeau. Écoutez, franchement, j'ai trouvé ça génial, ce livre. Je vous le dis parce que je l'offre, mais je l'aurais bien gardé. Ça, pour tuer le temps, on peut pas faire mieux. Chercher l'erreur. Vous connaissez ce jeu, chercher l'erreur.
Souvent, entre deux photos.
Ce sont des dessins. Sauf que là, ce sont des photos. C'est un magnifique livre. C'est un beau cadeau pour Noël. C'est aux éditions Télémac. Alors, regardez, je vais vous montrer. Évidemment, les auditeurs vont pouvoir imaginez, mais sur deux pages. Hein. C'est un grand volume, ce livre, très grand volume.
Oh la vache, c'est dur, là.
Vous avez
vague.
Deux photos quasi identiques, il y a une différence entre les deux photos.
C'est vachement dur. Hein.
Et il faut retrouver laquelle. Je pense que vous pouvez passer une heure par page sur ce livre.
Il n'y en a qu'une. C'est le jeu des sept erreurs, mais il n'y en a qu'une.
Il n'y a qu'une erreur. Il y a par exemple ce magnifique hamburger qui se trouve sur deux pages.
C'est génial.
Et ben, il y a une erreur.
Il y a un grain de sésame en plus en haut par rapport en bas.
À la fin du livre.
La vache.
À la fin du livre, il y a une page où on vous donne les indices. Faut pas la lire d'abord. Ouais. Les indices sur lesquels on peut, mais il vous donne pas la solution.
Ah.
Il y a des indices. Faut que vous trouviez vous-même l'erreur. Non, franchement, c'est bien foutu.
C'est un bon cadeau pour les gens à qui on sait jamais quoi offrir.
Voilà. 21 euros, c'est pas trop cher pour un cadeau de Noël. Un livre qui aurait pu s'appeler Le Grand Jeu des Une Erreur. Il s'agit simplement de retrouver l'unique différence glissée entre deux photos rigoureusement identiques à un seul détail près.
Ce que les gens savent pas, c'est que d'habitude, c'est une photo avec des personnages. Or là, vous avez du ciel. C'est uniquement le ciel.
Une photo, hein. La première photo, c'est New York, par exemple.
Oui, mais c'est pas des personnages. Tu peux regarder.
J'ai cherché, ce matin. J'ai essayé pendant 5 minutes. Regardez. La photo
de la Il suffit qu'il y ait une fenêtre qui soit pas allumée.
On voit la femme de ménage dans le 8e building.
C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a une fenêtre. Sur une des photos, ils ont rajouté Nafis à tout Diallo et DSK.
C'est drôle.
Cherchez l'erreur, c'est aux éditions Télémac. Des beaux cadeaux pour Florian Gazan cette semaine. Il le mérite. Il y en a un qui aurait mérité tous les cadeaux qu'on vient de donner aussi, c'est Stevie, parce que là je dois dire qu'il a pas eu de bol.
Le pauvre.
Il savait toutes les questions, y compris les plus difficiles, parce que Darwin c'était pas évident. Et franchement, bravo Stevie.
Ouais, mais j'ai joué sur la seule question
c'était
dont j'avais pas la réponse.
C'était quoi votre question à vous?
Où avait lieu le festival
littéraire. La foire du livre à Brive-la-Gaillarde.
J'ai bêtement écouté Christine qui m'a soufflé Francfort.
Oui, mais tu savais pas que c'était Brive.
Non, je ne savais pas.
Oui, mais enfin Francfort, il aurait préféré aller à Francfort, Stevie. C'est normal qu'à Brive-la-Gaillarde.
Pourquoi? C'est d'une... Ne relève pas. Joue au con. Pourquoi Francfort?
Mais vous savez cette phrase d'Audiard, Mireille Darc demande à une Ventura, tu m'emmènes à Honolulu? Il répond, on n'emmène pas de saucisses quand on part à Francfort.
Ouais, c'est horrible.
Je voudrais revenir sur le prix Renaudot un instant de Yann Moix, parce que vous avez eu une phrase très jolie, je trouve, quand on vous a demandé si vous étiez ému. Vous avez dit, c'est le plus beau des prix, le prix Renaudot, parce qu'ils ne se sont jamais trompés, eux, contrairement au Goncourt. C'est pas très modeste ce que vous nous faites là, car le Renaudot, c'est le prix qu'a obtenu Georges Perec, qu'a obtenu Céline, qu'a obtenu Marcel Aimé, qu'a obtenu Aragon. C'est un prix qui était fait pour moi et pour lequel j'étais fait.
Mais j'en rêve, Laurent, depuis l'âge de 14 ans du Renaudot, c'est ça qu'il faut savoir.
Ah ouais.
C'est ça que je voulais dire quand je
une
disais,
petite Madeleine de Proust, non, mais et pas la comique.
Il était fait pour moi, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire.
Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant?
Je t'emmerde, toi.
Okay, c'est bien résumé.
Est-ce qu'on peut l'avoir plusieurs fois?
Le Renault ah non, 2. Non, non, bah non.
On peut pas ?
Bah non.
Non, mais c'est écrit quelque part que c'est pas possible. Bah,
quand t'intègres Polytechnique, tu vas pas l'avoir plusieurs fois, tu l'as, c'est bon.
Sauf s'il écrit sous un pseudo, hein, il peut nous faire le
coup. Ah oui, regarde Ajar.
Émile Ajar.
Émile Ajar. Extraordinaire.
Pour les auditeurs, en fait, on peut dire qu'en 1975, il y a un auteur qui s'appelait Émile Ajar qui, d'un coup, a le prix Goncourt.
C'est formidable.
C'était en fait Romain Gary qui était grillé, qu'on considérait comme un vieil éléphant qui ferait plus rien, qui était à deux doigts de se suicider, et il a eu donc le Goncourt deux fois.
Voilà,
par subterfuge.
Tu vois ce qu'il te reste à faire.
On verra.
Qu'est-ce que tu vas prendre comme pseudo, Marc Lévy?
Non, Florian Gazan.
Enfin, plaisir.
Tiens, vous parliez des All Blacks tout à l'heure, ce qui vous ont permis de gagner, cher Florian Gazan. Bien, ils ont une particularité. Cette équipe nationale a une particularité par rapport aux autres sélections nationales. Laquelle?
Ils font des haïkus. Des haïkus.
Oui,
des
ça, évidemment.
Non, c'est le AK.
Ils se coopent.
Et ils sont habillés en noir. C'est ça que tu voulais dire?
Je sais pas. Tu peux répéter.
La Nouvelle-Zélande sélectionne évidemment des joueurs pour cette équipe nationale, comme il y a l'équipe de France de rugby, l'équipe de France d'Angleterre.
Australie, Écosse.
Mais l'équipe nationale, la sélection des All Blacks, a une règle étonnante et plus particulière que n'ont pas les autres sélections.
Est-ce que c'est les joueurs qui se cooptent entre eux?
Non. Non.
Est-ce qu'il y a une ethnie qui représente Par exemple, un quota.
Ils doivent faire une certaine taille en dessous de laquelle.
Il y a une cérémonie spéciale si on.
Non. Faut qu'ils aient chacun eu au moins une fois le Renaudot.
Non.
C'est religieux.
Non.
Non.
C'est un truc qu'ils ont en plus.
C'est sur le critère de sélection des joueurs.
Ah, c'est les
joueurs. C'est héréditaire.
Pardon.
C'est héréditaire.
C'est-à-dire.
Eh ben, ça veut dire que si le père il est rugbyman sélectionné en équipe de France, le gamin il est formé pour
transmission de la sélection par le sang. Non.
La longueur de la zigounette pour pas être ridicule sous la douche.
Non.
C'est pas la couleur des yeux.
Non.
C'est une longueur.
Non.
Est-ce qu'on pourrait estimer que c'est raciste presque?
Pas du tout.
Non.
Ça sert à quelque chose? Enfin, je veux dire, à partir du, on se dit, bah oui, c'est pas bête.
On peut être pour. Je sais que certains disent qu'en France, ça devrait être la même chose.
Est-ce qu'il faut parler genre le maori, parler le langage?
Non.
Ils sont tatoués.
Non.
Il faut avoir, il faut ne jamais aller dans une équipe concurrente ou adversaire.
On se rapproche.
Il faut jamais avoir joué en Australie.
Non.
À l'étranger.
À l'étranger.
C'est-à-dire.
Oui. Faut jamais avoir joué dans un championnat étranger.
Alors, c'est pas tout à fait ça, mais c'est quasi ça.
Dans un club étranger.
Dans un club étranger de
Il rugby. Faut donc.
Jouer dans un club de Nouvelle-Zélande.
Il faut jouer pour être sélectionné en équipe nationale en Nouvelle-Zélande. Il faut jouer dans un club de Nouvelle-Zélande. Bonne réponse collective, on va dire.
Eh ben, c'est bien. Je trouve ça bien.
C'est-à-dire que, par exemple, si on enlevait, prenons l'exemple en football.
Ribéry.
Si on enlevait les joueurs qui jouent à l'étranger, dans un club étranger.
Pas Ribéry, pas Benzema.
On jouerait à trois.
Voilà. C'est ça le principe, vous voyez.
Ah, c'est, ouais.
C'est pas mal, je trouve.
Mais moi, j'y connais rien mal, en foot, mais ça, c'est un truc auquel j'avais déjà pensé.
Par exemple, voyez.
Parce que moi, mais c'est vrai, quand t'es candide et que tu vois les trucs de loin, ça t'étonne de voir que ces gens-là jouent ailleurs, quand même. Ça semble extraordinaire que ça choque personne.
Oui, mais le club, c'est une chose différente que la sélection nationale. Mmh. On peut très bien jouer dans un club étranger et avoir envie de défendre son pays et son pays d'origine.
Je vois pas en quoi
c'est incompatible. À un moment donné, un joueur va jouer aussi dans les meilleurs clubs à titre personnel. C'est pas forcément les clubs de son pays.
C'est ce qu'on vient de dire, oui.
Voilà, donc c'est normal. Non, mais je le redis avec mes mots à moi.
Toi, par exemple, tu fais de la radio ailleurs, des trucs pourris, et ici T'es en sélection pour.
J'ai les bleus ici.
C'est vrai.
Je mouille le maillot.
Ouais,
je te remercie pour ma radio qui est dans le même groupe.
Mais je plaisante.
Virgin, en plus, c'est une très bonne radio.
Non, j'écoute souvent son émission.
Ça se passe bien, votre couple avec Christophe Beaugrand?
Très, très bien. J'ai l'impression que je suis en train de virer de bord parce que c'est comme très marqué, mais ça va, ça se passe bien.
Comment ça, très marqué?
C'est-à-dire que c'est comme la matinale la plus folle de la FM.
Non, mais surtout qu'il ramène tout à l'aide. Toi, t'es obligé de.
Mais c'est même pas ça, la chaîne.
Ce qu'il y a ici, c'est que ça vous change.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur.
Bonjour Dalila, bonjour Hervé.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Hervé est à Caen, Dalila est à Metz. Voilà un prénom non pas original, Metz. On le connaît évidemment. Mais Dalila, j'aimerais avoir l'explication. Pourquoi vos parents vous ont appelé ainsi, Dalila?
Mes parents sont pas d'origine égyptienne, mais ils aimaient beaucoup l'Égypte, donc ils m'ont appelée ainsi.
À cause de Dalida?
Non, de Dalida, Gilles Sanson et Dalida.
Ah, parce que moi, je pensais à la chanteuse, évidemment.
Non, mais bon.
Alors que moi, je pensais à Véronique Sanson.
Moi aussi.
Ah non, mais moi, je pensais à la chanteuse. Je me disais, tiens, c'est des fans de Dalida. Et ils l'ont appelé Dalida. Mais... À cause de Sanson et Dalida, alors.
Voilà.
Et ça vous plaît comme...
Les fans d'Adamo, tu l'appelles Adabo, quoi. Fan de Dalida, tu l'appelles Dalida. Tu l'appelles pas Dalida.
Fan de Zaz. Fan de Zaz, naze, quand même.
Et alors, ça vous plaît? Vous portez bien ce prénom, Dalila?
Oui, j'étais à l'école, effectivement, tout le monde m'appelait Dalida.
Et oui.
J'y ai pas échappé.
Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Dalila?
Je suis gestionnaire de ressources humaines dans le domaine de la traduction et l'interprétariat.
Très bien. Je vous présente Hervé, qui lui est du côté de Caen. Salut Hervé.
Bonjour Laurent, ça va?
Que faites-vous dans la... Ça va et vous?
Ça va, impeccable.
Bon, ça va mieux qu'hier?
Oui, au niveau du temps surtout.
Ah ben voilà, je tentais le truc pour savoir. Et faites quoi dans la vie?
Je suis technicien de laboratoire dans les travaux publics.
Parfait. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir?
En principe, tu dis parfait que tu comprends pas globalement la profession.
Ou que ça ne m'intéresse pas.
Voilà, exactement. Mais on le sent très fort.
Mais le dîner d'hier, ça m'intéresse, Hervé.
Oui, alors c'était un petit velouté de champignons.
Ah oui. Et vous, Dalila, votre dîner?
Risotto aux champignons aussi.
Ah, dites donc, les champignons en ce moment, c'est...
Les cèpes, c'est bientôt la fin des cèpes.
C'est la bonne période, à Stevie.
Ouais, mais j'ai pas été cette année.
Comment ça se fait?
Bah, je sais pas, j'ai pas eu le temps. Je suis épuisé par le travail.
Ah bon?
Oui, bah, ricanez pas. Je vous en prie.
Qu'est-ce que vous avez fait?
Bah non, mais je travaille le soir maintenant, donc...
Mais oui.
L'après-midi, moi, je dors. J'ai plus aux champignons. Non, et puis l'année dernière, mon chien, il a...
T'en attrapes, maintenant.
Non. N'importe quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé avec votre chien?
Je sais pas, il a pris des tiques. Vous savez, c'est des petites bêtes qui s'accrochent. Après, on prend la pince
à épiler.
On les arrache, en fait. Et l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que moi aussi, j'en avais sur la jambe.
Des tiques?
Ouais, des tiques. Et du coup, j'ai eu peur d'avoir la maladie de Lyme.
Lyme, c'est affreux.
Ou la maladie de Vincent Lindon.
Mais tu sais que la maladie de Lyme.
Parce que la maladie de Lyme, tu l'as.
Hervé, Dalila, vous allez jouer pour un séjour d'un week-end à la montagne dans un des hôtels clubs MMV de votre choix. Et vous pourrez choisir entre 50 destinations partout en France, les hôtels clubs MMV et les résidences clubs du même nom, de la même marque, j'ai envie de dire, vous donneront plus d'informations sur leur site internet www.mmv.fr. Voici la question. Cette semaine, le Parisien nous disait, moi ça m'a d'ailleurs surpris ce chiffre, ce taux, que 63% des Français étaient propriétaire, c'est une donnée Eurostat, c'est beaucoup hein, quand même, 63%. Je pensais que c'était moins que ça. C'est un taux qui semble important, mais pourtant, les Français ne sont qu'à la 26e place sur les 28 pays de l'Union européenne.
Ah ouais, mais je sais qui est le premier.
C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de pays, et quasi la plupart des autres pays européens, ont encore plus de propriétaires que nous, les Français. Mais quel est le champion d'Europe de l'accession à la propriété? Quel est le pays où il y a... Pardon, l'Espagne? Non, pas l'Espagne.
Le Portugal?
Pardon?
La Norvège?
Le Portugal?
Non plus.
L'Italie, l'Allemagne?
Non.
Non, c'est dans
la Hollande.
Écoutez bien, 96,6% de la population possède un appartement ou une maison.
Luxembourg?
Non.
Dans l'Est?
Le Vatican, dit Hervé, c'est malin, mais c'est pas le Vatican.
La Suisse.
Le Luxembourg?
Non.
Surprenant, dans quel sens?
Ah bah vous allez voir quand vous aurez la réponse.
La Roumanie.
Andorre.
Qui a dit quoi?
La Roumanie.
La Roumanie. Bonne réponse de Yann Moix, c'est la Roumanie.
Oh, je l'ai dit, en plus, dans l'Est.
Oh là là.
Non mais alors franchement, c'est étonnant, non? C'est perdu surtout, Dalila et Hervé.
Oui, bah ouais, oui, tant pis, c'est pas grave. Oh, merde. C'est parfait.
Bah ouais, je suis désolé quand même.
Non, j'aurais pas
non,
trouvé.
Non, mais c'est pas grave, on va chiner un petit livre dédicacé à Yann Moix.
Ah non, vous n'allez pas me faire... S'il vous plaît. Un petit livre de Yann Moix.
S'il vous plaît, monsieur.
Ah, quoi qu'on pourrait exceptionnellement offrir deux Renaudot.
Je m'en charge.
C'est vrai?
Oui.
On fait ça. Dalila et Hervé, vous allez recevoir chacun le prix Renaudot Naissance signé Yann Moix et publié chez Grasset. Ah ça c'est intéressant. Quelle syllabe pourra-t-on ajouter au terme galactique en début d'année 2015?
Inter.
Non.
Syllabe.
Oui. Quelle syllabe pourra-t-on...
Trans.
Un.
Non. ajouté au terme galactique au début de l'année 2015.
C'est un préfixe ou un suffixe ?
Alors, c'est ni l'un ni l'autre.
C'est au milieu.
Mais là, non. Alors, on va
galactitique ?
On va dire...
Ah, ben, j'essaye d'ajouter des trucs au milieu.
C'est pour que les bêtes...
Mais c'est presque ça. Sauf que c'est... Alors, puisque vous me demandez...
Galactactique.
C'est plutôt un préfixe. Ah,
la galactactique du gendarme.
Réfléchissez.
Non, mais c'est pratique pour les bêtes.
Bah non. C'est la galactique du gendarme.
Subgalactique, surgalactique.
Non, mais il y a une raison.
Gaga, Lady Gaga lactique.
Alors expliquez pourquoi.
Parce que Lady Gaga va être la première femme à chanter dans le cosmos.
Excellente réponse d'Isabelle Motreau. C'est donc la syllabe Ga qu'on va pouvoir ajouter,
oui.
Parce que ce sera un concert gagalactique que nous fera la chanteuse. Elle va quoi, elle est folle.
Mais la bonne nouvelle, c'est que dans l'espace, on n'entend rien, il paraît. J'ai besoin de gravité.
Elle va partir avec un avion spatial Virgin Galactic qui appartient, vous savez, à Richard Branson, et elle chantera à bord du vaisseau dans le cadre du festival musical et high-tech Zero J Colony qui aura lieu au Nouveau-Mexique début 2015.
Ce que je me demande, c'est qui va l'entendre. Donc il y a des personne, gens dans l'avion.
J'imagine que Richard Branson va pouvoir sur Virgin,
chez
nous,
sur Virgin Radio.
Fais-toi
évidemment
inviter dans l'avion, faites une émission en direct.
C'est quand même pas mal de chanter dans l'espace. Les enfants le font à l'arrière de l'espace parfois. Mais en week-end, mais
Armstrong jouait déjà de la trompette dans l'espace.
Non, mais c'est génial, non, Jean-Marie. Ouais. Vous avez fait le Stade de France. Elle a le droit de faire l'espace, quand même.
Oui, d'accord, mais moi les gens étaient présents, si tu veux. On a des traces et tout. Tandis que là, on ne saura jamais si elle a vraiment chanté dans l'engin en question.
D'accord.
Bah si, on aura des photos, on aura des preuves, évidemment.
Oui. Elle sera en apesanteur, alors ?
Ah non.
Non,
ah bah si, elle s'est allumée une robe en viande, la viande, elle va se barrer. Nos soutifs... Non mais attends, t'imagines le truc de ouf. Attends, Lady Gaga, putain.
Mais vous en rêvez vous aussi d'aller là-haut?
Ah mais j'en rêve, mais c'est
ça a toujours été votre rêve ça.
Mais non, mais c'est pas
et
ça.
Et pendant la lune.
Je passe des heures sur Google. Non, pas sur la lune.
Non mais ça c'est les fusées. Hein,
mais je passe des heures sur Google Earth, c'est mon rêve. Ça serait de voir la planète en live et avoir le pouvoir de prendre des décisions pour sauver notre planète et que les États seraient obligés d'exécuter ces décisions. C'est ça mon rêve.
Ouais, donc tu veux devenir dictateur?
Je veux être un méga dictateur.
T'es pas tellement gourmand. En fait,
oui, mais bon.
Si tu veux que je t'emmène en Corée du Nord,
je serais le dictateur de la nature, en tout cas.
Dictateur de la nature.
Ah ouais, ça me plairait bien.
Va voir Gravity déjà.
Vous voulez être Dieu, en fait.
Non, pas Dieu, mais voilà, prendre des mesures.
Mais pas loin.
Mais juste en dessous, quoi.
Voilà.
Que ce soit un parent proche, quoi.
Il va être sous Dieu.
Papa, il m'embête.
Un concert depuis l'espace, en tout cas. Non, c'est plutôt chouette comme idée. Ouais.
Si elle a poil, ça fera un trou noir en plus.
Oh non.
Florian.
Non, mais enfin, écoutez.
Bah non, mais Christine, elle est tout le temps nue en ce moment. Elle est tout le temps à poil. En
Christine, soyez pas jalouse, je vous vois faire
je
la
suis
gueule.
Pas jalouse, j'y
vous allez aux Herbiers.
J'y suis allé 50 fois, mais arrête.
Vous êtes en concert aux Herbiers, au meuble du Bois Joli.
Ceci dit, Christine, bravo aux Herbiers, c'est lunaire. Hein.
Ça, c'est vrai que
bien, je suis très contente d'aller aux Herbiers.
Demain.
Demain, dans l'après-midi.
Vous allez signer quoi? Il aurait fallu que vous fassiez un livre.
Sur les gens. Sur un livre. Mais je vais être là. Les gens sont heureux de me voir. Laurent.
Vous allez signer leur meuble.
Mais je sais pas.
Des photos.
Elle va signer des passeports.
C'est vous qui êtes jaloux là.
C'est quand même bizarre. Quand même,
c'est mon public.
Pour un magasin de meubles, d'engager la fille la moins commode du PAF. Libération nous rappelle qu'on les a longtemps appelées les silencieuses. Mais vous, avez-vous déjà acheté des silencieuses ?
C'est quoi ça ?
Ah, c'est la question, Stevie.
Est-ce que j'en ai,
des
moi ?
Silencieuses.
Des silencieuses ? Ah, je pense que vous avez dû en acheter. Vous êtes du genre.
Ah, c'est pas le truc qu'on met dans les oreilles ? Bultac ? Non.
Bulkies.
Non, du tout.
Bultac.
Il paraît que quelqu'un a les boules. Qui est-ce ?
Des pantoufles.
Ce sont des pantoufles. Excellente réponse de Yann Moix.
Des pantoufles, mais il est pas bien, lui.
Les pantoufles.
Des charentaises. On les a appelées les silencieuses pendant longtemps, les charentaises. Moi, j'en ai acheté des charentaises.
Moi aussi, j'en ai.
J'ai coupé le bout même.
Pourquoi ?
Ça s'appelle des tongs.
Pour pouvoir mieux fermer l'halogène, parce que sinon ça glisse la charentaise dessus. T'as que là, j'ai les doigts de pied qui dépassent, et hop, avec l'ongle, tac,
Le génie français.
En France, on n'a pas de pétrole, mais...
Jean-Marie, tu vas finir aux lépines. Hein.
C'est chaud la charentaise, c'est agréable. Je vous jure, moi j'en ai eu, c'est vraiment chouette.
Ouais, toi, ça m'étonne pas. Non, mais c'est pas sexe.
Mais on c'est s'en pas fout, sexe,
chez ah, toi. C'est moyennement sexe.
Ah, parce que toi, vrai. Chez toi, quand t'es toute seule, t'es sexe.
Bah, y'a que chez moi.
Ah, bah, dis donc.
Mais comme
je
suis.
T'es vu à l'œuvre, t'es pas châtré, on va dire.
Mais quand je te reçois.
Elle est mignonne.
Mais quand je te reçois.
Ah,
mais
bah,
je,
oui.
reçois, je reçois pas que toi.
Ah oui, tu reçois pas que moi. Oui.
Attends, avec toi.
Des fois, je débarque, elle a quand même la tête.
Non, mais Stevie, avec toi, elle peut mettre un survêt et des charentaises, y'a pas d'enjeu, quoi.
Oui, bah, oui, pas d'enjeu.
Elle sait que de toute façon, je charente pas.
Tu nous en ramèneras des charentaises, des herbiers, Christine.
T'es un peu comme les charentaises, on aime bien t'avoir à la maison, mais on veut pas sortir avec dehors.
Qu'est-ce qui sera la semaine prochaine au fond du lac Baïkal, en Russie?
La flamme olympique.
La flamme olympique, bonne réponse, bravo. Christine, bravo.
J'allais dire un opposant à Poutine, moi-même.
Non, elle était dans
l'espace.
Elle était dans l'espace éteinte.
Aujourd'hui, elle est dans l'espace,
éteinte.
À bord du vaisseau Soyouz et ensuite à bord de la station spatiale internationale. Et c'est vrai que voilà, les cosmonautes devront normalement la sortir dans l'espace, mais c'est pas la vraie flamme, c'est juste la torche.
Oui,
ce qui est très con, au fond.
C'est débile.
On lui fait tout à cette flamme. Hein.
Ah oui.
On l'emmène dans l'espace. On la fout sous la flotte et tout.
Mais j'ai jamais compris le principe de faire 5000 km avec une flamme olympique pour allumer une vase qui a pas un tabac à côté qui vend des briquets. Ouais. Non, mais c'est débile.
Mais elle s'est éteinte, en plus, c'est ça le drame. Elle s'est éteinte plusieurs fois en Russie. Ouais. Hein. Ils l'ont rallumée justement avec un briquet.
Il y a des flammes de secours, hein, de toute manière.
À plusieurs reprises. Mais alors, dans l'eau, ils ont trouvé le moyen, je sais pas comment, qu'elle reste allumée. Dans l'espace, elle est vidée du gaz qui l'alimente. Elle sera de retour sur Terre lundi avec cette autre destination, le fond du lac Baïkal, qui est le lac le plus profond du monde,
oui,
Stevie.
Il me semble, ouais.
Vous le saviez, ça?
Oui, oui. Et combien, il me semble même qu'il y a un trésor qui est en dessous, je crois qu'il y a une partie du trésor des Roumanov.
Mais non,
il faudrait
ça, c'était
vérifier.
Dans le
Roumanov, on va retrouver Willy, Donald Jacksman. Non,
il y a les blagues d'Anne Roumanov au fond.
Non, mais il me semble qu'il y a un trésor.
Les Roumanov.
Apparemment, il y aurait beaucoup d'or au fond de ce lac.
Ah oui?
Ah, mais beaucoup, beaucoup, réellement. Donc,
t'as lu ça dans le Club des Cinq?
Mais non, c'est parce que c'est un truc très profond, donc on n'y est vraisemblablement peut-être jamais allé. Alors on dit, il y a des trésors dedans, bien sûr.
1637 mètres, je parle du lac.
Oh la vache, oui.
On vient de nous donner la profondeur du lac. Voilà,
c'est énorme.
Vous avez la réponse. 1637 mètres. C'est beaucoup, ça?
C'est énorme, c'est beaucoup, énorme.
Moi, j'ai jamais plongé. J'ai peur d'aller sous l'eau.
Tu mets pas ta tête sous l'eau?
Non. Qui a fait de la plongée autour de cette table? Ah oui, Stevie, racontez.
Ouais, j'ai fait de la plongée à Saint-Barth. C'était juste féerique. Les Raymanta,
les Balkany.
Les Barracuda.
Mais t'as plongé à combien? Quelques mètres?
Ouais, une 30 quoi mètres, 40
non,
mètres.
Une centaine,
ah non.
Non,
ouais.
30
mais
mètres.
Non, 30, 40 mètres déjà, t'as fait
c'est
combien?
C'est beaucoup, peut-être 15 mètres.
T'as fait combien de paliers?
C'est ça, 5 mètres, c'est bien ce que j'ai dit.
Non, plus.
Je peux te dire qu'il en a fait des paliers pour voir une raie.
En gros, t'étais là.
Non, en plus, on a failli se faire attaquer par un mur de barracuda. Attends, mais
non, barracuda.
Non, mais c'est un grand mur noir qui arrive vers toi. Et c'est super impressionnant. Et puis là, il y a mon prof qui me fait rester là. Alors je reste avec mon pote, on est là. Et lui, il y va comme ça, mais comme un cinglé, il y va. Et puis tous les poissons, ils ont fait marche arrière. Mais attends, c'est un truc de malade.
Ah ouais. Ils ont pas la marche arrière.
C'est juste fabuleux.
Le poisson ne nage pas en marche arrière.
Non, mais il a fait demi-tour. Et les couleurs. Non, mais les couleurs des poissons.
Ouais. Il y avait la couleur.
Non, mais au fond de la mer, c'est l'arc-en-ciel. C'est juste féerique. Ah, oui. Des jaunes, des bleus intenses, des bleus comme les yeux d'Olivier de Kersauzon. Le même bleu, poignant, puissant,
magnifique,
qui te prend et qui te perce, quoi. C'est
non, Christine, c'est, vous avez plongé déjà, vous?
Ouais.
Et vous, Jean-Marie Bigard?
Moi, ça m'angoisse aussi un petit voilà. peu. Mais sinon, il y a une baie à Hawaï protégée par des coraux, et c'est un vivier de poissons vivants absolument incroyable. Tu vois effectivement des poissons, tu te dis c'est quelqu'un qui les a peints. C'est pas possible, tu dirais un coup de pinceau bleu.
C'est bon Dieu,
c'est un truc à touristes, là, t'as un vieux mérou avec une clope. Oh putain, ils arrivent.
Christine, où est-ce que vous avez plongé, vous?
Dans ma baignoire.
Partout, j'ai plongé partout dans le monde entier. Partout.
Je pense qu'elle a jamais foutu une tête sous l'eau.
Tu rigoles ou quoi? J'ai mon brevet de plongée.
C'est pas.
Moi,
c'est ça qui m'embête d'ailleurs. Je vais vous dire. Peut-être que j'aurais déjà plongé si j'avais pu. Mais ce qui me casse les pieds, c'est comme le golf. Au fond, on me dit toujours, ah, il paraît que c'est reposant, ce serait bien pour
c'est
toi.
C'est les deux heures que tu dois faire.
Plus que deux heures, c'est tout le temps qu'il faut passer à apprendre.
Mais si tu le fais une fois et que t'as ton brevet, tu fais plus jamais.
Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'au golf, si jamais tu frappes pas bien la balle, tu meurs pas asphyxié. C'est la grosse différence avec la plongée. Là, la moindre erreur, faut quand même apprendre un peu. Sinon, juste, tu meurs.
Ça fait mal aux oreilles et tout. Non, il faut quand même. Les paliers, tout ça.
Je réponds pas parce que Laurent, je le connais tellement comme si je l'avais pondu. Qu'il est en train, il me pose des questions, il a une idée derrière la tête, un truc, un coup de bambou qu'il va me mettre.
Pas du tout. Je pense que vous n'avez jamais, que vous nous racontez une fois de
j'ai
plus
plongé
des pipeaux et que vous n'avez jamais tenté la plongée.
J'ai plongé au Mexique, j'ai plongé, et moi, avec des requins baleines.
Ah ouais.
Oui, ça... ça
qui était le plus gros, toi, la baleine.
Et alors?
Et alors, quoi? Qu'est-ce
bah,
que
je sais pas, c'est une belle émotion.
C'est beau.
Regardez comme Stevie a su nous en parler. C'est vous, c'est l'écrivain, c'est vous, l'auteur. C'est... Faites-nous rêver.
Écoute, c'est le monde du silence.
Ah oui, ça peut pas vous aller.
Non,
alors.
C'est vrai.
On va se gêner sur Europe 1.
16h, 18h30. Laurent Ruquier.
Toujours avec Stevie Boulet, Isabelle Motreau, Jean-Marie Bigard, Florian Gazan, Yann Moix, le prix Renaudot. Et Christine Bravo, le prix du meuble du Bois Joli. Demain aux Herbiers en dédicace.
La pub.
Et en plus, ça sera deuxième prix.
Et demande qui te double ton cachet.
Mais elle va crouler sous les demandes, là.
Non, mais les deuxièmes prix, premier prix, c'est la boîte magique. Elle est dauphine de la boîte magique.
Mais pourquoi vous avez fait ça? D'habitude, c'est Daniel Gilbert, Evelyne Leclerc.
Eh bien, détrompez-vous.
Ah ouais?
Ce sont des gens que les gens aiment. Donc c'est pas uniquement
J'ai pas dit que les gens n'aimaient pas Daniel Gilbert
non,
ou Evelyne
mais
Leclerc.
Ils les aiment aussi.
Mais d'habitude, on va pardon pour les noms que je viens de citer, mais ceux qui font ça, c'est plutôt des gens qui en ont un peu besoin financièrement.
Mais j'en ai besoin.
Ce qu'on ne sait pas, Laurent, c'est qu'il lui donne 6 000 euros pour qu'elle vienne, mais il lui donne 12 000 pour qu'elle vienne pas.
N'êtes pas dans le besoin, Christine.
Mais qu'est-ce que vous en savez?
Attends, un mouchoir pour la dame.
Attends, je lui file 1 euro, elle me fait pitié en son gobelet.
Non mais si vous êtes d'accord, il a pas besoin
écoute,
de ça quand même.
Écoute, bah,
et en s'adressant à la France entière, demande aux gens si 6 000 euros de plus,
mais arrête,
ça les arrange ou pas. Bien sûr que ça t'arrange.
Mais c'est pas 6 000 euros, c'est pas une... J'y vais pas pour l'argent.
Mais non.
Non, c'est vrai que tu irais gracieusement.
J'y vais. Elle y va parce que Christine a une passion pour les meubles.
Mais oui. Voilà.
Les armoires, les commodes.
Et pour la région en général.
Elle adore ça, moi elle m'en parle tout le temps.
Elle aime les produits du tiroir.
Du tiroir caisse.
Mais les écoutez pas, messieurs du Bois Joli, ce sont des...
Messieurs
des...
du Bois Joli, c'est très...
C'est très élégant.
Ça sort à partout, hein.
C'est une émission.
Ça, c'est le club libertin où elle finira la soirée.
C'est une émission.
Tiens, justement, notre ami Jean-Marie Bigard semble avoir une histoire à nous raconter.
Ouais, écoutez, moi j'en ai une pour Isabelle. Alors là, non, non, Isabelle, ne fais pas...
Je sens que ça va être...
Non, laissez le raconter.
C'est une blague sans un... Je vais essayer, je vais faire le maximum pour mettre des cochonneries là-dedans, mais il n'y en a pas.
Oh, tu je comprends? Ne te crois pas.
Eh ben, tu vas être obligé de me croire.
Vas-y.
C'est un mec qui roule toute la nuit pour rentrer chez lui. Il n'est plus très loin, il commence à piquer du nez. Par sagesse, il s'arrête. Et il a raison de le faire. C'est un excellent conseil. 5 heures du matin, il décide de s'arrêter dans un petit bois, en pleine campagne, pour se reposer un peu. Il a raison. À peine il est endormi, il y a quelqu'un qui vient taper au carreau, hein, et en fait c'est un jogger. Il dit descend ça vite, et le jogger il dit il est quelle heure? Il dit il est 5h du matin. Le dit merci monsieur, et hop il repart en courant. Voilà, le jogger s'éloigne et le conducteur se rendort. On retape au carreau, dis donc. 5 minutes après, il descend ça vite, et un autre jogger dit excusez-moi, est-ce que vous pourriez me donner l'heure, s'il vous plaît? Il dit, il commence à être un peu les nerfs, il dit il est 6h-10. Le petit dit, nickel, merci, hop, il repart. Le conducteur, un petit peu agacé, parvient toutefois à se rendormir. Et là, tu me crois pas.
Je te crois.
Tu me crois, on frappe à nouveau au carreau. Un autre jogger dit, excusez-moi de vous réveiller, mais est-ce que vous pourriez me dire quelle heure il est? Il dit, vous pouvez pas vous acheter une montre? Il est 6h15 et j'essaye de dormir. Tout penaud, le jogger se confond en excuses et s'en va. Et là, le petit décide de prendre une grande feuille de papier, colle sur la vitre. Écrit très gros, avec un gros feutre, il écrit « Je n'ai pas l'heure !» Tu vois ? Bien écrit en noir, souligné.
Ouais.
Et une demi-heure plus tard, alors que là, il redort profondément, il y a un jogger qui tape au carreau. L'autre, il descend la vitre et lui dit « Il est 7h-20, monsieur !»
Elle est géniale. On aime bien celle-là. Qui vous a envoyé cette histoire ?
Eh bien, oui, alors là, j'allais oublier de le dire. C'est Nicolas Vigzag.
Merci, elle est marrante, cette histoire.
Oui, merci, Nicolas.
Ouais, c'est bien. Il m'est arrivé un vrai truc. J'étais dans
Sans rire.
Alors ça, c'est une nouvelle.
C'est incroyable. C'est un
truc
vrai.
Tu vas nous raconter un truc qui est vraiment arrivé.
Non.
Il y a des histoires
alors,
difficiles.
Alors écoutez, taisez-vous tous.
J'étais dans un train.
Et ben là, déjà, non.
Dans un train couchette. Oh là là. Il y a longtemps, mais tu sais, quand j'avais 20 ans. Et il y a un mec qui était, j'ai soif, parce qu'à l'époque, c'était mixte, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que j'ai soif? Mais qu'est-ce que j'ai... Il n'arrêtait pas. Et c'était le soir, tu vois. Et j'en pouvais plus. Et j'ai traversé le wagon pour aller trouver de la flotte, dire, mais il va pas laisser dormir. J'ai ramené de l'eau. Le mec, il m'a dit, ah, merci, merci. On réteint tout. Et il fait, oh putain, qu'est-ce que j'avais soif?
C'est une blague. C'est une blague. Je la connais depuis 20 ans, mais Christine, encore un mensonge de plus. Voilà.
Les histoires de Christine Mitho.
Ouais, exactement. Qu'est-ce que j'avais soif? Ça se passe dans une maison de vieux. Je l'ai raconté il y a 3 semaines. Ton histoire qui t'est vraiment arrivée. Dans...
Une question, si vous voulez bien. Qui a écrit sur Twitter, donc en moins de 140 caractères, cette phrase hier? L'action de Twitter vaut 26 $ et non 26 €, me dit-on. Cela retire encore de la valeur à mes tweets.
Bernard Pivot.
Excellente réponse de Yann Moix, c'est Bernard Pivot.
C'est drôle.
Qui est un tweetos infernal. Ouais, ouais. Et effectivement, qui a, on va dire, célébré l'arrivée de Twitter en bourse. Ça s'est bien passé hein, pour le réseau social, mieux que pour Facebook, je crois.
Mais Facebook s'était cassé la gueule. Twitter, je crois que ça a été introduit à 26 € et en fin de journée, c'était à 45, un truc comme ça.
Donc, on aurait pu gagner du pognon.
Bah oui, tu vois. Au lieu d'aller aux herbiers, tu prends des actions Twitter.
Mais qui c'est qui touche ça? Celui qui a inventé Twitter?
Ah bah les gars qui ont inventé Twitter, effectivement.
Mais comment ils gagnent de l'argent?
C'est les actionnaires.
Les actionnaires.
Non mais comment les mecs de Twitter gagnent de l'argent? Parce que c'est gratuit le réseau.
Twitter c'est surtout 230 millions d'utilisateurs par jour.
Oui mais c'est gratuit.
Oui mais qui est gratuit?
C'est gratuit certes, mais pour faire de la publicité sur le réseau c'est juste énorme. T'as forcément des bannières publicitaires.
Mais quelle publicité? Tu reçois des...
Mais où?
Bah en haut il n'y en a pas.
Non.
Non, non, non.
Ah bah c'est chelou.
C'est une bonne question ça. Non, comment ils gagnent de l'argent?
Appelons Paul Vermus.
Parce que sur Facebook il y a des pubs effectivement.
On essaiera de vous donner une réponse d'ici à la fin de l'émission. Comment effectivement les créateurs de Twitter gagnent de l'argent avec Twitter? Vu que vous avez raison, pour l'instant moi je ne vois pas de publicité sur ce réseau social.
Vous êtes appelé un économiste ou un spécialiste?
Ouais, on va chercher. On va. Mais en attendant, je vous demande où est-ce qu'on a pu voir Marine Le Pen, Valéry Giscard d'Estaing et l'ex-juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière hier.
Un truc du 14-18?
Non. Marine Le Pen, Giscard d'Estaing et l'ex-juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière.
Mais c'était eux vraiment ou c'était...
C'était eux vraiment.
Ils étaient ensemble.
Oui, Marine Le Pen, Giscard et
ben
Jean-Louis
je
Bruguière. Allez-y.
Aux herbiers.
Non.
Ensemble.
C'est une commémoration, de toute façon.
Commémoration, le mot est fort, mais...
Une cérémonie.
Une cérémonie.
Une parce qu'ils n'étaient pas, là main dans la main, ils étaient bien sûr pour une cérémonie.
Ils n'étaient pas main dans la main, mais ils étaient.
Légion d'honneur ou un truc.
Ils n'étaient pas loin l'un de l'autre.
La Légion d'honneur à Jean Roucas?
Non.
Ça n'a pas de rapport avec.
Non, mais on n'est pas loin.
Ça n'a pas de rapport avec 14-18?
Non,
mais non.
Alors... C'est une Légion d'honneur vraiment.
Non, c'est pas une Légion d'honneur.
L'ordre du mérite.
Non, non, non. Ça,
la mort de quelqu'un.
Alors oui.
À l'enterrement de quelqu'un.
Exact.
Gérard de Villiers.
À l'enterrement, aux obsèques de Gérard de Villiers. Bonne réponse de Florian Gazan. Bah, pas étonnant, Marine Le Pen.
Marine Le Pen,
d'accord, mais Giscard, qu'est-ce qu'il foutait là?
Marine Le Pen, elle en vélo, elle croyait que c'était l'enterrement d'un
SS. Et la ministre de la Culture n'a pas dit un mot.
Et Aurélie Filippetti, c'est son droit, c'est ce que dit même d'ailleurs la veuve de Gérard de Villiers. Elle dit de toute façon, franchement, elle a eu raison parce que Gérard de Villiers, il s'en serait foutu de savoir si le ministère de la Culture aurait fait un communiqué officiel. Il aurait préféré avoir un communiqué du ministère de la Défense, dit-elle même, la veuve
Giscard,
de Villiers.
Giscard, c'est normal, hein.
Veuve de Villiers qui n'était pas à l'enterrement. Elle, en revanche, c'est ce que nous explique le Parisien, parce que depuis, il était avec une nouvelle compagne depuis une dizaine d'années, mais il ne s'est jamais séparé de Christine de Villiers, sa dernière épouse, qui continue quand même à avoir 50% des parts de la société Gérard de Villiers, qui publie et édite SAS. Ce qui quand même fait qu'elle hérite évidemment d'une bonne partie du magot. Mais voilà, elle n'est pas venue parce que la dernière compagne de Villiers, elle, était présente. Giscard, en revanche, je ne savais pas qu'il était fan de SAS.
Il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont fans de SAS.
Bien sûr, le collage et tout, c'était un peu érotique.
Oui, ça baisait beaucoup, donc Giscard, c'est pour ça.
Mais une question que je me pose, ça faisait longtemps qu'il n'écrivait plus lui-même ses livres, il avait des nègres, etc., on le sait. est-ce que la série va continuer sans lui? Ça, c'est une question.
Oui, il y aura SS au Puy du Fou par Philippe de Villiers.
Non, mais.
Oui, sans doute, puisque.
Il y a un droit moral. Non, mais on n'en sait rien. Le droit moral n'a pas été cédé.
On va demander aux gens de Twitter.
SS, c'est quoi en fait? Des romans?
Oui, c'est des romans policiers, c'est Malcolm.
Espionnage.
C'est toujours un peu érotico, misogyno. Oui,
tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment.
C'était le Yann Fleming.
Gros macho et compagnie et tout ça, mais c'était très. Mais avec de l'humour.
Mais c'était le Yann Fleming français, quoi.
Oh non, non. Ian Fleming, c'est mieux quand même.
Vous avez vu les références de Stevie quand même. C'était le Ian Fleming français. Est-ce qu'il nous aurait dit ça il y a 10 ans?
Ah non.
Ça, c'est il aurait dit sur l'échelle de oui,
mais
c'est
attends,
comment
tu as tout refait sur ce gars. Tout refait, là c'est, là, c'est le, la, c'est le la... marbre. Le
il
marbre
me reste
entièrement
à faire l'intérieur. Tout à l'heure, on parlait de Twitter. Peut-être que la personne qu'on aura au téléphone saura nous répondre parce que Corentin Rowe est avec son ami, que je vais citer aussi tout de suite, Bastien Cazeneuve, sont deux Parisiens. Ils ont créé quelque chose qui marche actuellement très très bien et qui d'ailleurs à eux aussi va leur apporter beaucoup d'argent. Et on dit même que ça va peut-être être une concurrence féroce et française, c'est là où on peut être fier. Concurrence pour Candy Crush, le fameux jeu qui en ce moment fait fureur. Tout le monde joue avec des bonbons et de la gélatine.
Ça y est, j'ai débloqué mon niveau 127 pour que ça intéresse.
Sur son téléphone portable. Alors comment s'appelle le jeu qu'ils ont lancé, Corentin Rowe et Bastien Cazeneuve?
Et il s'appelle, je crois, Criminal Case.
Criminal Case, excellente réponse de Florian Gazan.
Ça va pas du tout.
Quoi?
Parce que moi, j'arrive pas à l'avoir sur iPad.
On va demander à Corentin Rowe, qu'on a au téléphone. Vous êtes le cofondateur de Pretty Simple, une société qui met en ligne le jeu Criminal Case. C'est une application qu'on peut mettre sur son téléphone, j'imagine.
Non, il faut passer par Facebook. Donc oui, c'est de la connerie, faut avoir Facebook. Alors, donc,
est-ce que c'est vrai ce que dit Christine?
Oui, c'est vrai ce que dit Christine. Et c'est pas vrai que c'est de la connerie, mais c'est vrai qu'il faut avoir Facebook pour pouvoir jouer à Criminal Case aujourd'hui.
Ça m'énerve.
Écoutez, on est en train de préparer la version, pour téléphone mobile.
Ah, c'est bien. Parce que écoutez, j'en ai entendu parler il y a quelques temps dans un magazine et je me suis jeté dessus, j'étais ravi de ce truc. Et là, je vois, il faut être sur Facebook.
Alors, expliquez comment jouer et qu'est-ce que c'est Criminal Case?
Alors, Criminal Case, c'est un jeu d'enquête policière auquel on peut jouer avec ses amis. Le principe est relativement simple. Toutes les semaines, on met en ligne une enquête policière, donc une affaire de meurtre. Et vous allez enquêter, donc chercher des indices dans les scènes de crime, analyser ces indices, interroger des suspects. Grâce à tout ça, vous réunissez un certain nombre de preuves. Et ces preuves vont accuser de façon unique un seul suspect, qui est le tueur, et que vous allez mettre derrière les barreaux.
Et en 6 mois, vous êtes devenu le deuxième jeu le plus populaire de Facebook, derrière le célèbre Candy Crush.
Qui est sur Facebook d'ailleurs, avant d'arriver sur les téléphones.
Donc ça veut dire que vous faites à peu près le même parcours qu'eux.
Oui, on a un très beau parcours. Candy Crush reste quand même à ce jour un phénomène de société assez incroyable. Hein. On croise toute la journée des gens qui jouent dans le métro à Candy Crush. Je dirais que Criminal Case est un très très beau succès. Il est juste un petit cran en dessous d'un jeu comme
Candy Crush. Et quand même, vous, ça nécessite un peu d'intelligence.
C'est ça qui est bien.
Non mais c'est vrai, un peu...
Alors, ça nécessite de l'intelligence et il faut avoir des amis. Alors ne vous étonnez pas que Christine Bravo soit un peu réticente.
C'est le Cluedo 2.0 en fait.
Ouais, c'est un peu ça l'idée. C'est effectivement, on s'est inspiré de Cluedo et puis aussi on est des grands amateurs de séries policières. Nous, notre envie à la base, hein, c'était de jouer aux experts, mais sur un jeu vidéo, quoi.
Alors, comment vous gagnez de l'argent, par exemple, sur ce jeu sur Facebook, Criminal Case? Qu'est-ce qui vous fait gagner de l'argent?
Comment on gagne de l'argent avec un jeu comme Criminal Case? C'est relativement simple. Lorsque vous voulez avancer dans une enquête, vous avez un certain nombre de points d'action. Donc, il faut que vous utilisiez vos points d'action, je sais pas, pour, par exemple, chercher des objets dans une scène de crime. Et lorsque vous avez utilisé tous vos points d'action, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous attendez un certain temps pour récupérer, pour que votre détective se repose et qu'il récupère les points d'action.
Ouais, c'est ça.
Pour pouvoir jouer gratuitement.
Soit si vous êtes pressé et vous voulez pouvoir continuer l'enquête tout de suite, à ce moment-là, il faut dépenser un peu d'argent.
C'est le même principe pour Candy Crush.
Ce qu'on appelle les achats intégrés.
C'est très proche. C'est les achats intégrés.
Ça coûte combien à peu près, si je suis très pressé et que je voudrais résoudre mon enquête assez vite, je peux dépenser jusqu'à combien?
Alors, vous pouvez dépenser beaucoup, autant que vous le souhaitez, tant que vous voulez continuer à jouer sans vous arrêter.
Ouais.
Après, on va dire que ça va coûter quelques euros pour continuer à jouer une demi-heure.
Et c'est ce qui vous fait vous gagner de l'argent.
Alors, c'est ce qui nous fait nous gagner de l'argent.
Est-ce que vous sauriez répondre à la question qu'on se posait tout à l'heure à propos de Twitter qui vient d'entrer en bourse? On se demandait comment les créateurs de Twitter, eux, gagnaient de l'argent. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de publicité, nous, sur Twitter.
Aujourd'hui, on sait qu'ils n'en gagnent pas. Aujourd'hui, ils perdent de l'argent sur Twitter.
Ah.
Après, je vais pas me prononcer sur le modèle économique de Twitter. Je sais pas ce qu'ils ont en tête, mais j'imagine qu'à terme, oui, il y a peut-être de la publicité sur le site.
Bah, comme Facebook au début, qui était sans publicité, puis ils en ont intégré au fur et à mesure. C'est comme.
Mais comment on peut faire rentrer un en bourse
dans un tweet de 140 caractères
déficitaire.
Écoutez, comment on valorise une entreprise comme Twitter? Ben, on la valorise avec ses 250 millions d'abonnés et juste. Alors qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais si on compare par exemple avec une société comme Google a mis 4-5 ans avant de trouver son modèle économique, et aujourd'hui c'est une des sociétés les plus à la fois les plus créatives, les plus parfois les plus inquiétantes, Google. Mais aussi les plus rentables au monde. Donc qu'est-ce que Twitter va faire de ses 250 millions d'abonnés?
On ne le sait pas encore.
C'est ça qui est intéressant. Ils n'ont pas encore trouvé le moyen de transformer ça en gain, quoi.
Ce qui compte, en tout cas, c'est que vous en gagnez de l'argent. Bravo, vous êtes français et vous allez créer cette application Criminal Case. Ça a un énorme succès en ce moment et en plus, vous avez très bien répondu à nos questions. Merci. Christine Bravo est en train de continuer à essayer de jouer, à chercher l'erreur.
Ah non, mais attends, c'est déprimant.
Ce livre, il faut qu'on l'explique pour les auditeurs qui seraient arrivés en cours d'émission. C'est un livre, très grand livre, hein. Je sais pas combien ça fait de centimètres à peu près, cette affaire-là, mais
35.
C'est un énorme. Stevie,
il s'y connaît.
Non, non, mais il fait bien.
J'ai pas dans l'œil.
Chaque photo fait 40 sur 30. Ça fait presque ouvert en deux, ça fait 40.
Et donc, sur une double page, vous avez la même photo qu'on croit identique. Enfin, nous disent qu'elle est identique et c'est vrai qu'elle a l'air de l'être, sauf, paraît-il, à un détail près. Ouais. Et le jeu, c'est de retrouver le détail qui différencie les deux photos, mais c'est introuvable.
Bah ouais, on peut faire une dépression avec ce livre.
C'est un enfer.
Exactement. Moi, je pense que ça altérerait beaucoup ma bonne humeur.
Non, mais
et
c'est un
on déraperait très vite sur le fait divers. Jean-Marie Bigard déchire son livre.
C'est un bouquin, c'est un bouquin pour les scientifiques. Tu sais, les mecs qui passent leur vie à étudier les dents des castors, toi, qui au bout de 70 ans découvrent que c'est un peu plus long devant que derrière.
Moi, j'ai des questions qui sont trouvables.
Ah, oui,
Par exemple, pour quelle raison reparle-t-on dans la presse aujourd'hui de cet ex-otage du Hezbollah libanais en 1987, dont le nom est connu par tous ceux qui regardaient les actualités parce que la photo de ces otages apparaissait chaque soir au journal de 20h, Roger Hawk. Oui. Pour quelle raison reparle-t-on
Le père de Marion Maréchal Le Pen.
Le père
biologique.
Le père biologique. Bonne réponse de Stevie Boulet.
C'est pas vrai.
C'est terrible.
Ça a été balancé dans le Figaro.
L'Express. Il faut savoir que l'info, en fait, a été balancée par sa propre maman.
Oui, mais elle l'a dit en off à une journaliste.
Elle l'a dit à Christine Claire, journaliste du Figaro, qui elle-même l'a raconté ensuite dans un livre. Ça a été repris par l'Express. Et Marion Maréchal a été reconnue par le mari de sa maman, Yann Le Pen.
Elle avait 2 ans.
Voilà, mais Yann Le Pen, quand elle s'est mariée, avait déjà une fille de 2 ans, la petite Marion, donc. Hein, on peut l'appeler
c'est
la
fou.
Petite Marion. Le plus emmerdé, ça va être lui dans cette affaire, Roger Hawk.
Moi, j'imagine. Au courant que Jean-Paul Kaufmann était le père de Florent Philippot. C'est étonnant quand même.
Mais oui, mais alors, est-ce que on a le droit de balancer, c'est ça toute la question. Jean-Marc Morandini en a fait ce matin un sujet. Est-ce qu'on a le droit de balancer comme ça des secrets de famille dans la presse? Est-ce que c'est si intéressant?
Morandini fait une émission sur est-ce qu'on a le droit de balancer?
Oui.
Non, c'est pas son genre.
C'est incroyable.
Non, mais, c'est une vraie question. Voilà. Elle porte plainte d'ailleurs contre l'Express pour atteinte à la vie privée. Et d'ailleurs, si elle s'appelle Maréchal, c'est pour rendre hommage à son papa, on va dire.
Ah ouais, mais adoptif. Je crois que le père était aussi Front National, Maréchal.
Oui.
Alors, quel
c'est
aurait
pas parce
été...
qu'on c'est s'appelle possible. Maréchal qu'on est forcément Front National.
Non, mais
Maréchal
est,
nous voilà, etc. C'est ça?
Non, mais c'est pas ça. Mais est-ce qu'au fond, si c'était Hawk qui l'avait reconnue, elle aurait eu le même destin politique?
Ah, ça, c'est toute une question.
Mais au fond, ça en dit long sur l'inné et l'acquis. Cette petite fille aurait eu un autre destin.
Mais peut-être pas. Et en plus.
D'ailleurs, on ne connaît pas les idées politiques de Roger Hawk.
Bah,
on peut être otage. Qu'est-ce qu'il y a, Christine?
Je pense pas non que ça soit un mec de droite, d'extrême droite. Je pense pas. Mais maintenant, on peut vérifier.
Et puis d'ailleurs, le papa, on peut être aussi d'extrême droite et pas avoir des parents d'extrême droite. Regardez Marine.
Non, mais regardez le président de la République. Le président de la République, son père était quand même d'extrême droite, François Hollande.
Évidemment, exact.
Et c'est quand même assez ironique, Marion Maréchal Le Pen, victime de délation, ça fait.
Ouais. En tout cas, je trouve ça assez scandaleux, moi.
Qu'on l'ait dévoilé.
Bah oui. Bah franchement, ça
d'abord, ça n'intéresse
personne.
Sauf que tout le monde en parle.
Bah oui, mais c'est non, c'est crapoteux quand même. Ah,
mais
hein.
Tu te rends compte s'ils se mettent à dénoncer tous nos pères biologiques?
De toute façon, les tests ADN, c'est le truc évidemment qui va créer dans les années qui viennent le plus de scandales familiaux.
Bah, déjà, hein.
Déjà.
Bah oui. Tu te souviens qu'il y a une bonne femme, elle porte plainte contre son mari parce qu'il veut pas reconnaître le cinquième enfant parce qu'il est noir. Et il lui dit quand même, celui-là, il est quand même un peu noir, quoi. Donc j'ai dans l'idée que c'est pas à moi. La femme porte plainte contre son mari et on s'aperçoit, après étude, que son mari, il est stérile. En fait, il n'en a aucun des cinq.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur.
Bonjour Anne-Laure, bonjour Maxime.
Bonjour.
Bonjour.
Anne-Laure est à Croissy-sur-Seine et vous êtes où, Maxime?
Pour l'instant, je suis à Saint-Hilaire-du-Harcouët, dans la Manche.
Dans la Manche. Que faites-vous dans la vie?
Pour l'instant, c'est-à-dire vous êtes en voiture, vous êtes en train de partir du département.
Non, non, c'est parce que je fais la fête foraine de Saint-Hilaire-du-Harcouët.
Ah, vous êtes forain, en fait.
Exactement.
Vous faites partie des gens du voyage, absolument. Maxime.
Oui, grosso modo, oui.
Et vous avez un manège?
Oui, c'est ça, j'ai un manège, oui.
Mais lequel? Le Tagada?
Non, c'est un palais des glaces.
On aime ça.
Ah, j'en suis pris des coups là-dedans.
Ah ouais, c'est vrai?
Ah bah,
par qui?
Non, mais oh.
Tu vas pas aller glace?
Je peux rien dire, moi, que ça me sert.
Ah non, mais tu t'écoutes, franchement, là.
Bah
aussi.
Oui, je me suis pris des glaces dans la gueule. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Quand j'ai été caressé par les miroirs? Franchement. Franchement, c'est.
Tu préférais te prendre un grand 8, peut-être?
Ah non, mais c'est vrai qu'on aime bien ça, le palais des glaces. Ça nous rappelle notre enfant.
Ça rend fou.
Moi, j'y vais encore. Ah, j'y suis allé l'été dernier encore dans un palais des glaces. Ouais, je vous jure.
Et alors, t'as trouvé?
Ben non.
Non, il a...
Au bout d'un moment, j'ai suivi quelqu'un pour trouver la sortie.
Il a croisé Laurent Delahousse qui se regardait. Je suis pas mal.
Et vous, Anne-Laure, faites quoi dans la vie?
Alors moi, c'est un peu moins fun. Je suis prof de maths.
Ah ouais? Ah oui, c'est moins rigolo.
C'est ça, exactement. Mais et bon.
Vous avez ce rire-là en classe rare, aussi?
Ouais. Non, mais en c'est fait, je suis prof de maths en indépendante, donc je donne des cours particuliers. Et je vais chez mes élèves, voilà.
Des d'accord. Cours particuliers, Anne-Laure.
Oh, j'essaye de faire comme avec le palais des glaces. Je suis prof de maths. Oh, et tout le monde s'émerveille.
Anne-Laure, votre dîner d'hier?
Alors, hier soir, c'était tomates farcies et riz.
Ah, j'adore ça aussi, les tomates farcies.
Alors, quel est le diamètre d'une tomate farcie?
Alors là, j'en ai strictement aucune idée,
Ah bah, ça dépend de la tomate.
Vous achetez la farce vous-même ou vous achetez vous faites tout fait?
Je l'ai achetée toute faite, là.
Ah, ouais. Et vous, Maxime, alors, qu'est-ce qu'on mange quand on est forain dans sa caravane?
Et papa?
Non, on évite, on en mange déjà un petit peu toute la journée. Non, hier, c'était un petit peu plus compliqué. C'était un couscous de poisson.
Ah oui.
Et tiramisu chocolat.
Oh, quand même. Ah non, c'est bien. Anne-Laure, Maxime, vous allez peut-être partir à Valoir en couple, si vous le souhaitez. Enfin, pas tous les deux, mais avec la personne de votre choix. Un séjour d'une semaine de ski. C'est pas mal. Une semaine de ski pour deux personnes. Valoir, vous le savez, c'est au pied du mont, enfin du col du Galibier. Vous pourrez évidemment skier, aller à la patinoire. Et je rappelle d'ailleurs qu'au mois de janvier, là-bas à Valoir, il y a un concours de sculpture sur glace et sur neige avec des artistes du monde entier. Un événement unique en France. Votre séjour comprend l'hébergement en appartement, les forfaits remontées mécaniques et l'entrée à la patinoire. Anne-Laure, Maxime, la question porte sur Clint Eastwood. En effet, il y a peu de temps, la presse titrait « Vaudeville chez les Eastwood », puisqu'on nous racontait que Clint Eastwood, qui est quand même maintenant assez âgé, il a 83 ans, Clint Eastwood, eh bien, il a une love affair avec Erika Fischer. Mais ça ne s'arrête pas là, ce vaudeville. Expliquez-moi ce qui se passe exactement.
En fait, il y a Erika Fischer, Scott Fischer, et le nouveau compagnon de Dina Eastwood, donc en fait l'ex-femme de Clint Eastwood.
Ils se sont échangés, leur mari et leur femme. Bonne réponse, Anne-Laure. C'est exactement ça. Clint Eastwood est désormais avec Erika Fischer, dont l'ex-mari Scott Fischer est lui avec l'ex de Clint Eastwood, Dina Eastwood.
Ça arrange tout le monde.
C'est une partouze, mais au ralenti. Ils s'échangent, après il va reprendre l'autre et ensuite ils feront tous les quatre ensemble.
Je sais pas qui perd au change dans cette affaire-là, parce que quand même Clint Eastwood c'est une bonne affaire. Bon, vous me direz qu'attention, il y a un divorce en cours et les avocats sont en train évidemment de s'intéresser aux dommages et intérêts d'un côté et de l'autre. C'était sa deuxième épouse, Dina Eastwood, et il faut savoir qu'elle demande la garde de Morgan, 16 ans, assortie d'un droit de visite pour le papa âgé de 83 ans.
Voilà. Clint, il doit être plus riche que l'autre, non ?
Ça, il y a des chances.
Oui, quand même, ouais. Non, mais c'est marrant parce qu'en fait, elle s'échange deux vieux, quand même, quoi, à peu près.
C'est vrai. C'est,
ouais, c'est encourageant pour nous.
C'est du viager à ce niveau-là, non ?
On n'est pas sûr qu'elle s'échange de vieux parce que...
Non, il est pas jeune non plus.
Scott Fischer est entraîneur de basket à l'université d'Hawaï. Donc, bon, on peut...
Il n'a pas 83 ans.
Non.
Ah, quoi qu'entraîneur, regardez Giroud. Bon, il n'entraîne plus aujourd'hui, il commente. Mais enfin, quand même, c'est un bon parti, Giroud, aujourd'hui encore.
Sûrement.
Ne serait-ce qu'en termes d'eau minérale.
Oh, la cristalline, elle est si bonne.
Là, c'est autre chose qu'à d'aller faire une dédicace pour les joueurs fleuris.
Anne-Laure, bravo, c'est vous qui allez partir à Valoir. Avec qui ?
Avec mon chouchou d'amour qui m'a aidé à réviser depuis hier soir. Donc voilà.
Ouais, le chouchou d'amour, il s'appelle comment ?
Il s'appelle Tanguy et il avait déjà joué avec vous il y a quelques temps et il avait perdu. Donc voilà.
Oh, voilà, la honte pour lui !
Oh, le nul ! Échangez-le avec Clint Eastwood.
Maxime, vous rejouerez une autre fois. Il y a des croustillons dans votre fête foraine ?
Ah, il y a de tout : croustillons, crêpes, barbapapa, pommes d'amour, tout ce que vous voulez.
Chose.
Mais attendez, il y a un truc, puisqu'il y a quand même une question qu'on n'a pas posée à Maxime, puisque vous êtes dans le Palais des Glaces. Votre manège, c'est le Palais des Glaces. Vous changez de temps en temps la sortie du palais. Est-ce que ça se modifie en fonction des jours et des semaines ou des endroits où vous êtes, ou c'est toujours la même formule et les mêmes couloirs et la même sortie ?
On peut changer selon les fêtes foraines.
Ah,
voilà. Mais vous le faites.
Il n'a pas intérêt de changer parce que c'est lui qui change de ville, donc il n'a pas intérêt de le changer. S'il restait tout le temps dans la même ville, l'autre il dirait non, je le connais par cœur, celui-là. Mais là, comme c'est vous qui...
J'ai une autre question. Si je rentre dans le Palais des Glaces avec mon TomTom, mon GPS, est-ce qu'il m'indiquera la sortie ?
Pas sûr. À mon avis, vous restez bloqué dedans un certain temps.
Et attendez, il y a encore une autre question. Le record que vous ayez eu de quelqu'un qui soit vraiment resté, mais longtemps.
Deux ans et demi. On le remballait avec dedans.
Il faisait la tournée, il a fait toutes les villes de France, le gars.
Pas volontairement, mais quelqu'un qui vraiment n'en pouvait plus de rester bloqué et de pas trouver la sortie.
Ça peut durer facilement une heure.
Ah ouais ?
Et moi, j'ai une question. Une heure à l'intérieur, à monter, descendre et vraiment rester bloqué.
Et est-ce que vous, le chemin, vous le connaissez par cœur au point de le faire, par exemple, en 5 minutes en courant ?
Ah oui, je peux, mais ça m'amuse plus. Moi.
Merci Maxime pour vos réponses. Bravo Anne-Laure.
Europe 1, on va se gêner ?
De la semaine. Et soudain, tout change. Un roman, une nouvelle aventure, signé Gilles Le Gardinier, publié aux éditions Fleuve Noir. J'ai confié ce roman à Christine Bravo, Yann Moix, Isabelle Motreau et Stevie qui commence. Alors Stevie.
Oh, alors, ce livre. Déjà, je vais dire que la couverture...
Elle est immonde.
Avec ce petit chat.
Ouais, je suppose que c'est Flocon et franchement, ça donne vraiment pas envie de lire le livre.
Un Flocon, le petit chat ?
Oui. Enfin bref, c'est l'histoire de Camille, une adolescente qui est dans sa dernière année lycée et c'est vrai que pour la dernière année, elle se retrouve avec tous ses copains de classe. Et à côté, on voit aussi sa vie de famille avec son chien Zoltan, Flocon le chat, Lucas le petit frère. Enfin bref, on va suivre les péripéties de cette petite fille. C'est pas... Enfin moi, comment dire ? Parce que j'ai pas envie de dégommer le livre. Mais c'est pas pour moi.
Ah.
Comment, je sais pas comment expliquer. C'est bien écrit, c'est gentillé, c'est mignon, mais je me sens absolument pas concerné. Et puis trop de détails. Il est gentil, monsieur le jardinier.
Calme-toi.
Le gardinier. Mais voilà, moi je suis pas le public et j'ai pas envie de démolir ce livre parce que je suppose qu'il y a des gens qui apprécient ce genre de livre. Mais pour moi, c'était insupportable.
Christine, bravo.
Écoute, depuis quand tu nous choisis des bouquins comme ça, j'ai envie de dire. On va finir avec l'école des loisirs. L'école des loisirs, il y a des trucs bien. Mais tu vas finir par nous filer des abécédaires, des livres à toucher et des trucs à mettre dans le bain. Tu vois.
Les livres de tout à l'heure qui fait des sons, là.
Alors écoute, faut que t'arrêtes.
Je suis désolé. Je sais pas si vous avez vu cette page entière dans Le Parisien. Mais c'est enfin... Catherine Ball qui avait fait ce papier. Cet écrivain vous fait du bien. Gilles Le Gardinier a cartonné avec Demain j'arrête. Son nouveau roman est soudain tout change, prend le même chemin. Une plongée dans les années lycée.
Alors je t'explique une chose. D'abord,
c'est émouvant, drôle, plein de suspense, un best-seller annoncé.
Alors attends, je t'explique que la jeune fille qui parle à la première personne, elle est censée étudier Descartes et Spinoza et elle écrit dans un langage, enfin elle s'exprime dans un langage de gamine de 9 ans et demi. C'est-à-dire, oh Flocon, mon petit chat, comme il joue avec une pelote de laine, point. Oh, maman est montée. J'avais pas envie. Alors, elle a frappé doucement. Je n'ai pas répondu. Lorsqu'elle a entrouvert, j'ai fait semblant de dormir. Écoute, c'est, l'écriture, c'est niveau petite section de maternelle. Donc, je sais pas, moi je préférais Petit Poisson, c'est pas nager, J'aime pas le pot, enfin tu vois, des vrais bouquins.
Il a vendu 470 000 exemplaires. Écoute, de son précédent.
Oui, mais ça n'est pas pour moi, et je pense que ça n'est pas non plus, ça n'est pas non plus pour des ados. Je pense qu'il y a mieux à lire pour des ados que ce style. Mais enfin,
non, mais ça renvoie quand même à la nostalgie. Moi je revoyais mes années lycée, je revoyais mes potes.
Bon,
mais,
oh,
mais,
mon petit flocon.
Mais non, moi c'était ma vieille grisoune, alors.
Ta vieille grisoune.
Ma chatte.
Ah, oui, alors là.
Je crois que tu parlais pas de Christine.
Ce sont des livres optimistes, des livres.
Ça, oui, c'est vrai que tu n'en as pas connu beaucoup après. Donc c'est pour ça que tu t'es
Isabelle
Motro. Ça s'appelle la littérature feel good. Comme il y a des. C'est feel good maintenant, c'est la grande mode. Il y a des émissions de télé feel good et tout. Il faut se sentir bien. Ben moi, déjà, je n'ai pas envie de lire pour me sentir bien. Ouais. Et deux, c'est vrai que.
Je crois que vous êtes en train finalement de bien vendre le bouquin.
C'est
parce qu'il y a des tas de gens qui ont envie de se sentir bien. En lisant des bouquins.
Ouais. Oui, mais franchement, d'abord, alors je connais pas le précédent. Demain j'arrête, qui avait vachement bien marché. Je ne sais pas si c'était pareil, mais là, manifestement, c'est écrit pour des enfants quand même.
Yann Moix, que pensez-vous des soudains? Tout change. Le dernier Gilles Le Gardinier, qui, rappelons-le, avait fait un tabac avec son livre « Demain j'arrête ». C'était l'histoire d'une fille qui était amoureuse de son voisin de palier. Là, c'est autre chose. C'est les années lycée, en quelque sorte.
C'est les années lycée. Je vais être très honnête, j'ai pas eu beaucoup de temps pour le lire cette semaine. Mais je dirais à Stevie que pour les chats, en fait, c'est le gimmick de l'auteur. Il met toujours des chats qu'on met dans des posters pour les toilettes, tu sais.
Non, mais c'est ça.
Comme les calendriers des postes.
Ouais, c'est un peu avouez quand même une chose, c'est que la couverture, c'est hyper important pour un livre.
Oui, mais c'est
je vous assure, la couverture orange comme ça avec le chat, je vous assure, vous prenez le livre. Non. Ben moi, franchement, ça me bloque. Psychologiquement, je suis pas dans l'histoire déjà, mais rien que par rapport à la couverture.
C'est ce qu'il y a de mieux, la couverture. Regarde, c'est très à l'américaine avec un titre. Mais si, c'est ce qu'il y a de mieux, la couverture.
Sur YouTube, dès qu'il y a un chat, c'est 100 millions de vues.
Alors, Yann.
Non, j'ai regardé un peu ça et là, par ponction. Il y avait des choses quand même assez drôles. C'est du polar pour adolescents, j'ai l'impression.
Pas du tout pour les adolescents. Regarde, il y a des bouquins extraordinaires.
Ah, écoute, depuis Gilles Renaudot, j'ai plus envie de dire du mal des livres de vie.
Europe 1, on va se gêner. Ciné.
Motro.
Pompon.
Beaucoup de films sont sortis mercredi. Lesquels pouvons-nous aller voir ce week-end pour nous détendre, nous amuser? Je ne sais pas si ce sera un week-end pluvieux, mais c'est un week-end férié avec un pont. Lundi, c'est le 11 novembre. Donc, 3 jours, samedi, dimanche, lundi, pour aller au cinéma. On va peut-être en profiter. Monique Pantel, bonjour.
Oh là là, la mer est démontée. Quand la remonte-t-on?
Ah, vous parlez là du film En solitaire, qui est un film européen d'ailleurs. Vous avez aimé?
C'est le mieux de la semaine.
Oh, bah tant mieux.
Non, c'est pas vrai.
Oh, ah. Elle commence.
Elles ne sont pas d'accord, ça tombe bien. Alors, François Cluzet, Virginie Efira, Samy Seguir, racontez-nous ce qui vous a plu dans ce film En solitaire, Monique.
J'aime pas beaucoup les bateaux, parce que c'est pas mon genre, les bateaux, j'ai pas le pied marin. Mais celui-là, il est extrêmement bien fait. Et François Cluzet, comme d'habitude, il est de mieux en mieux, il est même génial. Donc il concourt pour le vent des globes pour remplacer quelqu'un qui n'est pas bien. Quoi. Il est balayé par les vents, il s'accroche à sa conscience quand il s'aperçoit qu'un petit garçon, un petit ado plutôt, s'est glissé dans son bateau en
cachette. Un clandestin.
Il est vachement emmerdé qu'il y ait un petit garçon parce qu'il va pas pouvoir gagner la course.
Bah, il le jette.
Oui, voilà, parce qu'on se demande, à un moment, je me disais, mais il va le jeter.
Oui.
Non.
En fait, c'est l'Odyssée de Pi avec un petit mec au lieu d'un tigre, en fait.
Non, alors, je
et
crois
en
pas.
En fait, le petit séduit, séduit. Je veux dire, ils se plaisent tous les deux, ils deviennent copains. Moi, je trouve ça très bien.
Parfait, Monique Pantel a aimé En solitaire. Vous aussi, Isabelle
Motro? Non, moi, je l'ai pas vu parce qu'il y avait tellement d'autres trucs.
Ah, mais alors, pourquoi vous l'avez contredit quand elle a dit c'est le meilleur film de la semaine?
Parce que je suis sûre que le meilleur film de la semaine c'est pas celui-là.
Bah ouais, vous en savez rien si vous n'avez pas vu celui-ci.
Ah, moi je suis de super mauvaise foi.
Non mais là c'est pas honnête alors.
L'honnêteté féminine.
Bah attendez, alors c'est lequel le meilleur pour vous?
Ah bah pour moi c'est Quai d'Orsay.
Quai d'Orsay, le film de Bertrand Tavernier avec Thierry Lhermitte, Raphaël Persona, Nils Arestrup, Thierry Frémont. Vous l'avez vu aussi, Julie Gayet. Vous l'avez vu, Monique?
Évidemment que je l'ai vu. Vous me prenez pour qui? Je croyais voir un film historique, j'ai vu un film hystérique. Je trouve qu'il joue très mal. Thierry Lhermitte. Et c'est mon copain depuis très longtemps, depuis au moins 30 ans. Mais il joue mal, il a été mal dirigé. C'est dommage parce que bon, il fait que rentrer de ceux qui sont en jeu, c'est de rentrer dans les bureaux en faisant voler tous les papiers.
Ah, le film est quand même, moi je l'ai vu, hein, Quai d'Orsay, le film est quand même très réussi. D'abord, voilà, il nous fait vivre l'intérieur d'un ministère. Moi, j'avais jamais vu ça, au fond, comment ça se passait dans un ministère. Et c'est fait de façon très amusante. C'est très BD, ça, c'est vrai, le ton est...
Oui, quel ministre il
est... Le ministère des Affaires étrangères, puisque c'est une bande dessinée au départ qui raconte le moment où Villepin prépare son discours à l'ONU contre la guerre en Irak. Ouais. Et alors, mais évidemment, ça, c'est anecdotique. Ce qui est rigolo, c'est évidemment de voir ce jeune mec énarque joué par Raphaël Persona qui est engagé pour être la plume du ministre et qui va devoir refaire je ne sais combien de fois un discours et de voir comment ça se passe au sein des ministères, la guerre entre les différents conseillers. Donc, franchement, moi je me suis beaucoup amusé. Moi,
alors celui qui est extrêmement bon, c'est Nils
Hjorth. Ah oui, Nils Hjorth.
Rien que pour lui, ça vaut le coup.
Mais Persona aussi, parce que je trouve qu'il joue la candeur et le naïf et le bisu dans cette affaire, mais alors parfaitement bien. Isabelle.
Alors oui, moi j'ai beaucoup aimé pour toutes ces raisons-là. Je trouve que ce qui est très fort dans ce film, c'est que c'est très intéressant. On apprend des tonnes de choses, en fait, sans jamais cesser de sourire et de rire.
On se marre.
Ce qui est quand même très fort. Et puis surtout, de nos jours, c'est rare de remettre en valeur comme ça la politique et les politiciens. Parce que là, évidemment, il y a des bassesses, il y a ceux qui en profitent, etc. Mais il y a surtout des gens qui bossent comme des tarés.
Ah oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve que ce n'est pas l'honneur de la politique.
Ah si,
film.
Moi, je trouve que.
J'entends dire et lire ça partout.
Sont pas bien.
Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je ne trouve pas que c'est une bonne image de la politique. Mmh. Mais je trouve que le film est justement ça très réussi. Et il est malin, Bertrand Tavernier. Je sais très bien pourquoi il ne peut pas dire le contraire. Dans la presse, dans les interviews, il dit mais non, c'est une bonne image. Forcément, d'abord parce qu'il a eu l'autorisation de tourner au Quai d'Orsay. Il ne veut pas se mettre à dos Dominique de Villepin, qui est caricaturé dans ce film. Mais au fond de lui-même, il sait très bien qu'il a fait un film où il se fout de la gueule de la politique. Mais il ne peut pas le dire.
Surtout
lui qui est un vieil anarchiste. Hein.
Oui, mais pas que. C'est ça qui est.
Mais c'est quand même très réussi. Allez, on passe à un autre film, Violette, avec Emmanuel De Vos et Sandrine Kiberlin qui jouaient Simone de Beauvoir.
2h19 d'ennui intellectuel.
Aïe, aïe, aïe.
Avec deux actrices sublimes, De Vos et Kiberlin. Que font-elles dans cette galère? Je n'en sais rien. Violette Leduc est écrivain et subjugue Simone de Beauvoir par son talent. Violette est subjuguée par le charme de la compagne de Sartre et la compagne de Sartre est subjuguée par le talent de Violette. Bon, voilà, c'est très chiant et elles ne couchent même pas ensemble en aucun moment.
Isabelle Motreau a l'air d'accord.
Alors oui, je suis absolument d'accord.
2h20, c'est long en plus.
Il y a une chose quand même qui est remarquable dans le film, c'est Sandrine Kiberlin qui fait Simone de Beauvoir. Ah non, mais alors là, elle est scotchante, quoi. C'est une réinterprétation de Beauvoir, parce qu'on connaît bien Beauvoir, on l'a vu 50 fois à la télé. C'est pas tout à fait la même, mais elle a transcendé le personnage, quoi. Et par ailleurs, il y a une deuxième chose qui est très bien dans le film, et moi, c'est les meilleurs moments pour moi, c'est quand on entend des extraits de Violette Leduc, qui écrit très bien. Et donc, l'idée, c'est relisez Violette Leduc, ou lisez-la, ou découvrez-la, on la connaît pas
très
bien.
Mais le film, vous n'êtes pas obligé.
Alors, le film, non.
C'est un film réalisé par Martin Provost. Le médecin de famille maintenant. Alors là, c'est un film argentin, franco-espagnol, norvégien. Ils sont mis à plusieurs.
Ah, c'est vachement bien.
Eh ben, c'est aberrant. Là, ça vous secoue. Hein.
Ah ouais.
En 1960, on sait que beaucoup de nazis s'étaient réfugiés grâce au Vatican, d'ailleurs, en Amérique du Sud. Et là, il y a un médecin qui est allemand, très gentil. Il plaît à tout le monde. Il plaît à toute une famille de cons, d'ailleurs, parce qu'il se laisse faire. On fait des expériences. Ils trouvent leur fille trop petite. Et ce médecin nazi fait des expériences sur elle, gentiment, comme il faisait dans les camps de concentration. Et la petite, elle va de plus en plus mal. Enfin, c'est Mengele, hein, je vous le devais deviner. Mais c'est pas aussi... formidable que ça aurait dû l'être.
Le médecin de famille, mais c'est pas
c'est
mal quand même.
C'est quand même un film fascinant. Moi, je savais pas du tout qu'il y avait déjà une colonie nazie avant même la guerre, la Seconde Guerre mondiale en Argentine, enfin dans l'endroit où c'est tourné. Et c'est assez fascinant. C'est une espèce de paradis nazi comme ça où Mengele va se réfugier. Et on sait que c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y est passé vraiment dans l'histoire.
Puis c'est la pire ordure, je pense.
L'ange blond, comme on le surnommait, l'ange blond de la mort, quelque chose comme bien. Ça. Et on sait qu'il est passé par là, on sait qu'il a fait des expériences. Et il y a même un endroit dans cette région-là où il y a un village où il y a le plus grand nombre de jumeaux au monde. Et on sait qu'il est passé par là, donc on pense, c'est pas avéré, mais c'est quand même, il y a beaucoup d'indices, que c'est lui, vous savez, il travaillait là-dessus, sur le fait de provoquer la naissance.
On va dire
que c'est
un film historique alors. Hein.
Voilà, et c'est quand même assez fascinant ce film.
Il a inventé
vraiment.
La photocopieuse en fait.
Le médecin de famille. Bah alors il faut aller voir en solitaire.
Ah non, il y a Inside Llewyn Davis. Dont vous
c'est génial, les Cohen.
Le film des frères Cohen, mais pourquoi vous ne l'avez pas vu Monique?
J'en ai vu un bout.
Comment ça, un bout, pourquoi?
Mais j'y suis allé le voir.
Et alors?
Mais ça m'a... Moi j'ai pas d'oreille, alors au bout d'un moment je me suis dit bon je m'en vais. Mais c'est bien.
Ça a l'air très bien quand même.
Attends, mais les frères Cohen, c'est des mecs extraordinaires.
C'est vraiment très
pourquoi vous dites
bien.
J'ai pas d'oreille? Parce que c'est trop musical, c'est ça?
Oui, vous savez que la musique, moi je connais pas.
Alors allez-y Isabelle.
Alors non, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, et pourtant c'est pas un genre de musique forcément facile, puisque le héros joue une espèce de country poétique un peu spécial, mais tout à fait envoûtante. D'ailleurs Isaac, le héros chante lui-même et il est extraordinaire. Et c'est l'histoire comme ça, une odyssée un peu à la Cohen, hein, d'un type qui va, un chanteur qui fait pas de concessions et qui donc du coup crève la dalle. Profite de ses potes pour dormir sur leur canapé, leur emprunte de l'argent, etc. Et puis, il doit aller passer une audition. Voilà, c'est l'histoire de ce type qui part.
C'est l'acteur dont tout le monde parle, Oscar Isaac, qui joue ce film.
Son prénom.
Inside Llewyn Davis.
La puissance de feu de ces deux réalisateurs qui changent l'univers à chaque fois.
C'est extraordinaire.
Hallucinant.
Parce que là, il reconstitue quand même.
Je les adore.
Il reconstitue quand même le New York des années 70 d'une façon tout à fait prodigieuse. Et en plus, c'est très très drôle, bien sûr. Enfin, non, vraiment, c'est un film.
Alors, allons-y pour le film des frères Cohen, Inside Llewyn Davis, le film avec Cluzet en solitaire. Et pourquoi pas, évidemment, aussi Quai d'Orsay, parce que c'est quand même un très bon tavernier, une bonne comédie. Ça vous fait trois bonnes raisons d'aller au cinéma ce week-end.
Europe 1, on va se gêner.
Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur?
Bonsoir, invité d'honneur.
Bonsoir.
Heureux de vous retrouver dans cette loge. Je ne sais pas si c'est votre première fois. Je crois que vous étiez peut-être venu une fois il y a longtemps, non?
Oui, c'est le numéro 2.
Alors, mes camarades ne sont pas forcément ceux qui étaient là la fois où vous étiez venu il y a quelques années. À eux de retrouver votre identité. C'est parti, la voix est déformée, évidemment.
Est déformée, mais aucune femme ne peut répondre « bonsoir ». Comme vous l'avez fait, l'intonation, la musique du bonsoir me donne envie de vous appeler monsieur.
Oui.
Vous êtes parisien?
Vous habitez en France?
Oui.
Vous êtes français?
Oui.
Êtes-vous né à Nice?
Non.
Est-ce que vous êtes rattaché à une région particulière? Est-ce qu'on vous connaît pour une attache à une région?
Non.
Non.
Vous avez des enfants?
Oui.
Combien d'enfants?
Un.
Combien de femmes?
Une.
Est-ce que vous êtes élégant?
Moi, je trouve, oui.
Est-ce que la vie a été délicate?
C'est un mot qui lui va bien, élégant, je trouve. Oui, ouais.
Est-ce que la vie a été délicate avec vous?
Non.
Est-ce que vous fumez?
Non.
Jamais vous n'avez fumé?
Si.
Ah, vous êtes arrêté quand?
Il y a
40 ans.
Vous avez déjà fait un duo avec Maurice Chevalier?
Ouf!
Oui, avec Toutankhamon.
Non, quand même pas.
Il a arrêté de fumer il y a 40 ans.
Il a peut-être arrêté à 6 mois.
Oui, c'est ça. Ouais.
Est-ce que vous aimez...
On ne peut pas poser de questions sur l'âge, mais c'est vrai que ça paraît étonnant je n'imagine pas votre âge, en fait. Et ce n'est pas quelqu'un dont on imagine qu'il est vieux.
Est-ce que vous avez des cheveux blancs?
Oui.
Est-ce que vous aimez l'opéra?
Oui, sans plus, mais oui.
Un premier indice musical pour vous aider.
Dis où est l'amour, le grand amour que j'attendais. Est-il dans une ville ou dans une île qu'on a...
Il est très facile, très très facile cet indice. Vous êtes d'accord, invité?
C'est
Jeanne Moreau.
Alors, il est très facile. Et c'est dans un film qu'elle chante.
Oui.
Oui, donc...
Est-ce que vous aimez le jazz?
Oui.
Est-ce que vous voyagez beaucoup?
Pas mal.
Pour votre boulot?
Oui.
Vous lisez beaucoup pour votre boulot ?
Non.
Vous aimez le rock ?
Oui.
Un deuxième indice musical. Ça date de 92, cette affaire-là. C'est un peu compliqué, cet indice. Plus difficile, finalement, que le premier.
Ah ouais, non, c'est... laisse tomber, passe au troisième.
Il me faut d'autres questions pour que vous puissiez avoir le droit à un troisième indice.
Bon, alors, c'est vous avez un rapport avec le cinéma ?
Non.
C'est une émission de générique. Enfin, c'est le générique d'une émission ?
Du tout. Oui.
Non.
Aucun rapport avec le
vous
cinéma.
Vous n'avez pas de rapport avec le cinéma ?
Ce n'est pas une musique de documentaire ?
Non.
Non plus.
Vous avez un rapport avec le théâtre ?
Non.
Non. Ah, vous pouvez peut-être y aller maintenant sur le métier de notre invité, parce que vous en êtes très loin.
Avec les chanteurs ?
Oui.
Vous avez écrit pour Jeanne Moreau, par exemple ?
Non.
N'en dites pas plus. Voici un troisième indice musical. On se retrouve dans un instant après la pub. Réfléchissez bien.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Tout le monde siffle.
Alors êtes-vous siffleux ?
Le soleil brille.
Êtes-vous siffleur ?
Êtes-vous siffleur ?
Non.
Il l'a chanté.
Êtes-vous sifflé ?
Êtes-vous sifflé non
il
plus.
Il l'a chanté. Vous avez chanté Hello, le soleil brille.
Alors, non. Isabelle Motreau, je dois le dire, a identifié déjà notre invité d'honneur. Bravo, Isabelle.
C'est impossible.
Quant à Stevie Boulet, je n'ose même pas dire le nom qu'il m'a.
Non, il est mort.
Oui, Serge Reggiani. Mais Serge Reggiani.
Il est mort.
Mais t'es dingue.
Alors, enfin, écoutez.
Il y a longtemps.
Alors, est-ce que vous avez.
Ils sont tous morts, c'est pas possible.
Est-ce que vous avez été l'amant de Jeanne Moreau?
Non.
Bravo alors, Isabelle, en tout cas.
Mais alors, c'est vraiment parce que je connais votre esprit d'escalier, cher Laurent.
Vous nous expliquerez tout à l'heure.
Ah, le pont de la rivière Kouai. Donc, attends, le pont de la rivière Kouai.
Vous êtes asiatique, c'est un peu.
Ah bah oui, un chanteur français asiatique.
C'est une contrepétrie, le con de la
rivière Kouai.
Rivière Couille.
Écoutez cet indice suivant. Jean-Marie ?
C'est un B212, ça. Ah non, c'est sur un circuit.
Ouais. Vous êtes Ayrton Senna.
Non, mais c'est pas n'importe quel moment du circuit, si vous écoutez bien.
C'est la chicane.
C'est là où on accélère. C'est là où on ralentit.
Le tunnel.
La béquille. Comment ça s'appelle ? Écoute, ça ralentit. Mais c'est... comment ça s'appelle ?
La chicane.
Mais enfin, vous êtes des mecs !
Ben ça va,
il y a une chicane, c'est vous qui avez écrit non, rien de rien. Non, rien de rien. Non, rien de rien. Non, 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 non. Ni le bien, ni le mal. C'est ça, mais bien dit. Non, 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 non.
T'es un malade, Jean-Marie.
T'es un grand malade.
Ouais. Bon, alors, est-ce que vous, je sais pas, vous mettez la gomme,
Bon, là, je crois qu'il faut que je fasse quelque chose.
Même moi, je vois pas du tout ce que c'est que cet indice.
On vous expliquera tout à l'heure, mais voici un dernier indice, peut-être. Si vous trouvez ce que c'est que cette chanson, vous avez trouvé le nom de notre invité.
C'est Corse ?
Non.
qui m'a proposé Angelo Branduardi.
Je voulais savoir ce qu'il devenait.
Ah oui, parce qu'alors là, il n'y a que vous et moi qui nous en souvenons. Ah, alors.
Si, il est en photo.
Il avait la même coupe de cheveux que le fils de, du maire de New York.
Ah, oui, vous savez pourquoi. La rivière, la demoiselle traversant le ruisseau.
Oui, ouais. Ah oui, ouais, mais alors ça devrait vous donner une indication, tout ça, quand même.
Ah, la rivière
justement.
Et,
ah, je sais. Ouais, et ouais. Alors, il y a quelqu'un qui m'a mis ma concierge. Non, qui m'a mis ma concierge.
C'est moi, j'ai reconnu un air portugais.
Non, il s'appelle Rivière.
Non, il s'appelle pas Rivière. Non,
il s'appelle quoi? Il s'appelle Pont.
Alors, Yann Moix.
Le petit pont.
Alors, je l'ai.
Est-ce que c'est le petit pont?
Yann Moix.
C'est le petit pont.
Yann Moix m'a donné le nom.
Mais je l'ai aussi.
Alors, notre invité d'honneur, c'est donc 1, 2, 3.
Yves Duteil.
Yves Duteil, évidemment. Yves Duteil. Yves Duteil est notre invité d'honneur. On a entendu juste avant la pub un extrait de son dernier album Flagrant Délit. C'est d'ailleurs la chanson qu'on vient de diffuser. Mais il vient aussi, Yves Duteil, nous voir pour ce magnifique album Profondeur de chant, écrit avec Alain Vaudraska. C'est aux éditions L'Archipel. Ce sont des photos, votre parcours, des témoignages, une jolie préface signée Véronique Sanson aussi. C'est vraiment une copine à vous. Ce qu'elle écrit est magnifique, hein, je dois dire.
J'ai été extrêmement touché.
Mon cher, tendrissime et belle Yves, c'est avec un plaisir que je ne dissimulerai pas très longtemps, tu me connais, que j'attrape au vol l'occasion de me lever de toute ma hauteur, avec un point d'exclamation parce qu'elle n'est pas très grande, Véronique Sanson, pour clamer haut et fort devant témoins, devant lecteurs, que tu es pour moi le plus grand poète de notre gauloise galaxie. Tu rends l'impitoyable moins lourd dans nos âmes, tout redevient vivable quand tu nous chantes nos vies, ta vie. Refus des impossibles, tu parais invincible, mais ta tendresse te trahira toujours. Ta douceur ne rime jamais avec tiédeur. Je n'ai pas jusqu'au bout le reste, il faut le découvrir ce livre. Mais c'est un bel hommage qu'elle vous rend, Véronique Sanson.
C'est ma Véro, elle est extraordinaire.
Yves Duteil, ça va être l'occasion de retracer votre parcours, les différents indices que j'ai donnés à mes camarades. Parce que le premier, c'était pourtant simple, c'était Jeanne Moreau. Bah, écoutez, si on avait prolongé la chanson et vous allez l'écouter, vous auriez entendu Yves Duteil, parce que c'était un duo cette chanson.
C'était le duo de son film L'Adolescente. Et elle m'avait demandé en fait de chanter avec elle cette chanson de Philippe Sard et paroles de Jeanne Moreau. Ça a été un moment délicieux et ça a été vraiment une séance d'enregistrement extraordinaire dont j'ai un souvenir merveilleux. Et c'est un des morceaux cultes, je dirais, que nous on emmène dans la voiture quand on part en voyage.
Écoutez. Quand je dis écouter, c'est le moment où il chante plus, évidemment.
Le grand amour que j'attendais,
tu es l'ange le fou. Le deuxième indice, c'était plus difficile. Vous l'avez compris, vous, ce deuxième indice?
Je crois que j'ai compris, oui.
C'est la musique de la parade de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville en 92. Parce que votre chanson avait été choisie par le comité olympique pour être la chanson officielle des Jeux d'hiver, c'est
absolument.
Ça ? Quelle chanson c'était ?
La fleur de l'impossible. Dans le soleil couchant, sous la flamme qui danse, la neige a des secrets d'argent, de bronze et d'or. Ce soir, tous les regards se tournent vers la France.
Aux couleurs enlacées des cinq anneaux du sport. Mais l'indice qui a aidé Isabelle Motreau à vous découvrir la première.
Ah, j'ai trouvé ça extraordinaire.
Voilà, comme elle me connaît bien, voilà. C'est presque 25 ans qu'on travaille ensemble. Isabelle Motreau s'est dit.
Le pont.
Pont de la rivière Kouai. Petit pont de bois, évidemment.
Mais oui, bien sûr.
On traverse naguère pour passer la rivière tout près de la maison. Le petit pont de bois.
Je la faisais écouter à mes mômes à l'école. Je leur faisais chanter ça quand j'étais instite.
Et c'est d'autant plus marrant qu'en fait, le pont de la rivière Kouai, ça me fait penser à Neri. Neri, qui était le chanteur du groupe Les VRP, qui est aujourd'hui, avec qui on travaille ensemble sur la mise en scène du prochain spectacle, qui est celui du Trianon en janvier.
Les 10 et 11 janvier au Trianon.
Voilà. Et en fait, notre relation a commencé avec ça. C'est-à-dire, il a fait une espèce de. Avec son groupe Les VRP, ils ont fait le petit pont de bois de la rivière Kouai, qui se terminait par une explosion. comme si on avait bombardé le petit pont de bois.
Ah donc, en fait, on n'était pas loin de la vérité.
Mais oui, tout à fait. Et c'était d'autant plus drôle parce que ça aurait pu faire qu'on s'entende jamais. Et on s'entend merveilleusement bien au point qu'on fait le spectacle ensemble.
Au Trianon, les 10 et 11 janvier prochains, Yves Duteil en concert. Mais alors, ces bruits de voiture, ces voitures qu'on a...
C'est quoi ça?
C'est,
bah,
c'est Virage.
Virage.
Ma première chanson.
Des Virages. La première chanson d'Yves Duteil.
Mes paupières s'alourdissent un peu. Mais dans un kilomètre ou deux, après le village au virage, dans un petit bar, il y a du feu.
C'était du rap avant l'heure, en fait.
Toi, tu dors depuis l'autoroute, fatigué, énervé, sans doute. Plus qu'un kilomètre, peut-être, et puis du café, auprès du feu.
Et puis la cinquième chanson.
Ça, c'est la tarentelle.
C'est une tarentelle,
ah, oui.
Évidemment.
Ça y est, j'ai trouvé, c'est une tarentelle.
Et oui, la tarentelle, autre succès d'Yves Duteil.
Danse, danse, vous avez appris le pas. Oh, donnez-moi la cadence, danse, venez danser avec moi. Ne me laissez pas la danse, danse, pas la danse comme ça.
C'est dingue.
Venez m'apprendre la danse, danse, et la danser avec moi.
C'est dingue, la musique, comme ça, c'est évocateur du mec.
Vous savez, la tarentelle, qu'on la danse.
Ah, mais moi, c'est toute une partie.
Ah, mais moi aussi, c'est ma vie.
Yves Duteil, c'est toute une partie de ma vie.
Moi aussi.
Il y a deux albums, mais que je connais par cœur, quoi.
Pour moi, c'est Georges Brassens sans moustache, quoi.
Celui qui vous connaît le moins autour de cette table, je crois, c'est Stevie.
Ah mais moi c'est une totale découverte. Excusez-moi, votre talent m'a pas éclaboussé, mais c'est moi qu'en suis furieux.
Hein, alors attendez.
J'en suis furieux.
Attendez,
Stevie, il y a au moins une chanson, au moins une chanson que vous connaissez. Attendez, ne dites rien. Que vous connaissez forcément. C'était le sixième indice que j'avais sous le coude.
Alors c'est Bouteille, jolie bouteille.
Mais non, ça c'est Grimmel White. Écoutez, ne dites rien parce que j'avais un indice, la version allemande de ce succès international d'Yves Duteil.
Ah, pam, 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 pam.
Mais non,
c'est Nana Mouskouri, ça.
Bah oui, c'est Nana Mouskouri.
Écoutez, écoutez, écoutez,
écoute.
Écoutez.
On va voir s'il connaît l'air. Mais non, il connaît.
Bon, alors on y va. Attends, tous en français.
Prendre un enfant par la main.
Oui, c'est ça. Prendre un enfant par la main.
Et ben voilà.
Ah, c'est vieux, ça. Ah, ça aurait été appartenu au domaine public. Hein.
Ah, ça, c'est le plus beau compliment.
Mais oui,
il dit que ça appartenait au domaine public. Alors, on la chante tous ensemble. D'accord,
il vous vous
donnez le là. Attention, 1, 2, 3.
Prendre un enfant par la main. Pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pain, prendre un enfant pour un roi.
Ah, Yves Duteil, alors, Stevie.
Ah, j'aime bien. Mais je suis furieux après moi.
Je suis furieux après moi.
Ouais, c'est dingue, j'ai des telles lacunes sur des phénomènes comme monsieur.
Je me demande si le phénomène, furieux, c'est pas vous, voyez.
Mais oui.
Des fois, il est tellement furieux après lui qu'il pense que c'est pas lui. Je peux pas être aussi con que ça.
Bon, écoutez, avez-vous déjà eu un canapé rouge chez Drucker?
Oui.
Oui.
Oui. C'était la Chantal Goya de votre génération.
Ah,
c'est ça.
Ah, c'était le compliment, là. C'était le moment du compliment.
Mais non, parce que nous on a eu.
On n'en sortira pas. On n'en sortira pas.
Yves,
je suis désolé.
Tu peux rester. Alors, c'est pas grave. C'est pas méchant. Vrai, c'est Stevie.
Dans sa langue, c'est un compliment.
À ce moment-là, je vais te raconter une histoire parce que c'est donnant. Hein. On a des petits enfants autour de nous dans la famille et dans un dîner de famille, c'était fantastique. Il y a une des petites filles qui dit, bah voilà, c'est super. On est tous des Homo sapiens, sauf Tonton. Lui, il est juste homo.
Il y a une autre chanson, Stevie, quand même. J'ai la guitare qui me démange, ça vous dit rien?
Alors
ça,
je gratte un petit peu.
Oh, si, j'ai la guitare qui me démange.
Alors je gratte un petit peu.
Oh. Bon, bah écoutez, alors c'est ce qu'on va faire, Yves Duteil.
Chanson sur l'eczéma.
On va.
Ah, mais je connais Henri Dess.
Méfiez-vous parce que c'était contagieux.
On va lui donner deux billets pour aller vous applaudir au Trianon, voilà. Les 10 et 11 janvier prochains. On n'a plus que ça à faire.
Bah oui, il va redécouvrir en fait des choses qu'il connaît.
Et lui offrir l'album Profondeur de chant, Yves Duteil avec Alain Vaudraska. Et puis l'album est sorti depuis un petit moment, mais en tout cas les dernières chansons d'Yves Duteil dans cet album flagrant délice. Merci Yves.
Merci à vous.
À très bientôt. Merci. Bon week-end sur Europe 1, bon long week-end.